Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Belgique qui avait lieu sur le superbe circuit de Spa-Francorchamps. On raconte qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer une tempête de l'autre côté de la planète. Eh bien ce dimanche, quelques gouttes de pluie vont peut-être avoir de très grandes conséquences sur le championnat du monde de la F1. Vous le savez, cette semaine, nous fêtons les 2 ans. Et vous savez, je suis comme un bisounours, alors j'ai beaucoup d'amour à donner. Et donc, c'est avec un grand plaisir que ce soir, je vais dire bonjour Fab007, bonjour Buchor et bonjour Dino.
Les gars, barrez-vous, il a beaucoup d'amour à donner.
Bonsoir. Oh,
Dieu.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Bonsoir,
chers auditeurs. J'ai oublié.
Bonsoir.
Alors, ce Grand Prix.
Super.
Dino.
Ah oh ouais, décevant. Il faut que je me démarque à chaque fois. Il faut qu'il y ait un gros chieur, c'est pour parler 2 heures, c'est moi.
Le mec chiant.
Non mais moi j'aime pas les courses qui se déroulent comme ça.
T'es pas sous la pluie, non, c'est bien.
J'aime bien les courses sous la pluie, mais quand c'est du début à la fin sous la pluie, voilà.
Ah bah quand, non,
Ben ouais, mais je préfère. Moi, après, j'aime pas le côté de loterie, le côté gros compte Barrichello qui tape le pauvre innocent Alonso, tu vois, genre par exemple.
Ça y est, ça commence.
C'est ou, marrant, je sens que ça ne tira comme pas bon. Pareil de Vettel.
Ou le pauvre Sébastien Vettel qui dérape.
Non, oh,
non, non. Oh.
Méchant Button.
Attends, je te le fais d'un autre point de vue. Ce gros con de Vettel qui m'a percuté et percé le radiateur. Button.
Il s'est rappelé à Monaco. Qu'il y avait un mec qui avait oublié un bouchon, il s'est dit ça se trouve, ils ont oublié un bouchon, je vais lui faire un trou dans son radiateur, il pourra finir la course.
On dirait la communication de Red Bull quoi.
Carrément.
C'est magnifique.
Allez, sans transition, vous le savez, nous étions le dimanche 29 août, et je suis content parce que pour une fois il y a 3 personnes qui vont m'écouter.
Il y en a deux qui vont jouer, il y en a un qui va se reposer pour une fois.
Tout de suite, c'est l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le dimanche 29 août, c'était la Sainte Sabine, et donc le 29 août, quelques événements. D'abord le 29 août 1793... Non mais c'est un truc qui est pas anodin du tout. C'est quand même la première abolition de l'esclavage en France.
Oui, la première. C'est important de le souligner, c'est la première.
La première, oui. C'est oui, la première. Oui. Autre 29 août, le 29 août 1885.
La naissance de Bernie Ecclestone.
Non, c'était avant ça.
Mais non, voyons, c'est le jour où les gens sont allés sur la Lune, voyons.
Salaud.
Le 29 août 1885, Gottlieb Daimler a déposé un brevet sur la première moto. Donc ça, 120 ans la moto, même plus que ça. Le 29 août 1966, c'était aussi le dernier concert des Beatles à San Francisco. Sachant que le groupe s'est séparé 3-4 ans plus tard.
Ils ont fait quoi pendant ces 3-4 ans?
Bah ouais, parce
ils ont sorti des albums.
Si quelqu'un a des nouvelles.
Des nouvelles des Beatles.
Non, mais c'est bien.
Et sinon, le 29 août 2005, vous avez peut-être entendu parler... ce week-end, c'était le triste anniversaire de l'ouragan Katrina. Alors, les naissances de ce jour, c'est un spécial type étrange.
Oh.
Oui, oui.
Ron Dennis.
Alors, le premier type étrange, en fait, c'est pas exactement lui. C'est le 29 août 1632, c'est la naissance de John Locke. Et en fait, je pense pas à ce John Locke-là, je pense plutôt à l'autre John Locke, qui lui est vraiment étrange.
Ceux qui ont vu Lost, vous avez compris.
Voilà.
Ceux qui n'ont pas vu Lost,
comme moi,
passez tout de suite à la suite, accélérez, vous avez l'habitude.
Ouais, mais moi, je peux pas, là.
Mais attention, parce que j'ai des types encore plus étranges. Car le 29 août 1949, naissait quelque part, on ne sait pas où, était sur Terre, était sur une autre planète. Ceux qui habitent peut-être la ville de Menton, c'est Igor et Grishka Bogdanov.
Oh mon Dieu.
Et oui.
Non, on dit pas ils sont nés, on dit ils sont arrivés sur Terre ce jour-là.
Voilà. Et autre personne saine d'esprit, le 29 août 1958, c'était Michael Jackson.
Waouh.
Ah ouais, c'est gratiné le 29 août. Alors je n'ai pas trouvé de journée internationale. Par contre en Slovaquie, c'est la fête du soulèvement national slovaque qui commémore le début de l'insurrection armée de la résistance slovaque contre les nazis. Donc un truc bien patriote et bien fier. Et ce 29 août, eh bien, ce n'est pas un jour anodin, puisque c'est le jour de naissance d'un champion du monde de Formule 1.
C'est Niki Lauda.
Ça n'est pas Niki Lauda.
C'est pas lui.
Mais c'est,
oh là là.
C'est quelqu'un qui a roulé contre Niki Lauda. Il est né en 1947. Fangio contre Lauda.
Non, mais tu, je dis de bêtises, le monde. Non, mais oh, j'ai suis nul avec les dates. Je suis nul avec
Dieu, contre Lauda. Donc, 29 août 1947, et c'est quelqu'un qui a, je le répète, roulé contre Lauda.
Hunt?
C'est James Hunt.
Oh, trop fort!
J'ai failli le dire, en plus. Honnêtement, j'ai failli le dire.
Donc, il a été champion du monde en 1976. On avait rappelé, d'ailleurs, les circonstances qu'on avait parlé de Nürburgring. Alors, revenons un peu sur la carrière de James Hunt. Une carrière assez courte. Est-ce que vous avez une idée du nombre de saisons qu'il a parcouru en F1?
5, 6,
aucune idée.
8. 8.
Ah, vous êtes pas loin, c'est 7. Idée du nombre de victoires?
5, 6, 8, 7.
Oh, 14.
Non, moins que ça. 3,
6.
Moins que ça. 9.
C'est plus.
10, 11.
C'est 10.
Ah, oh, trop fort.
C'est sûr qu'il t'a dit plusieurs. Attends, 10, 11,
12, 13, 14, 15, voilà.
C'est bon.
C'est ma stratégie, moi. Chacun sa stratégie.
Alors, il a commencé sa carrière en 1973 en F1. Alors exactement, il n'a pas été embauché par son équipe puisqu'il est venu en fait avec son équipe de Formule 2 vers la Formule 1. Est-ce que vous savez quelle équipe c'était?
Aucune idée, non.
C'était l'équipe Esket Racing. Ouais, c'était une toute petite équipe anglaise. Bah écoute, elle avait une énorme particularité, c'est qu'elle n'avait aucun sponsor sur sa voiture parce que c'était Lord Esket qui payait rubis sur l'ongle l'équipe. Qui n'a duré que 2 ans, comme par hasard.
Ah oui, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pognon, quoi.
Voilà, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pognon. Et aussi, Esket a été réputé pour être un peu un Red Bull avant l'heure. Alors, non pas qu'ils foiraient leur course tout seul, non, non. C'est surtout que c'est...
Arrête, arrête, j'ai déjà dit, tu touches pas avec elle.
Oh, si, on va gêner.
C'est que surtout, c'était des gros fêtards. Et donc, il y avait quasiment après chaque Grand Prix, Esket, bah voilà, qui faisait des grandes fêtes. Quand on pense aussi au personnage de James Hunt, hein, ils étaient faits, oui, pour se rencontrer. Ouais,
c'est clair.
Donc en 75, fin 75, il se retrouve sans volant. Et là, quand même, il a quand même du bol, puisqu'il va chez McLaren. Et là, il nous fait un peu un coup à la Rosberg chez Williams, hein, vous vous souvenez?
C'est-à-dire... McLaren, ils aiment bien les alcooliques.
Oui, aussi. Et surtout, première année chez McLaren, titré. Alors, pour un point, on a raconté les circonstances, hein, puisque il y avait eu l'incident de Lauda. Malgré tout, il y a quand même, en 1976, 5 victoires. Hein.
5 victoires, c'est quand même beaucoup de victoires au moment où Lauda n'était pas là.
Bah, il y en a 2 avant.
Oui, il y en a 2 avant, mais les autres...
Ouais, mais Lauda était monstrueux sur cette saison.
Oui. À noter d'ailleurs qu'il a, que sa première victoire, il l'a même pas eu avec McLaren, mais avec Esket. 1977, il réussit quand même à gagner de nouveau 3 fois. La McLaren est encore d'assez bon niveau. Il finit 5e du championnat. Et puis, c'est après que ça se gâte un peu. Parce que là, on est, vous savez, on est en 78, il y a les Wing Cars qui arrivent. Et, la McLaren, elle est à la rue. Et lui-même, il perd un peu son mojo.
C'est Austin Powers, le mec.
Bah, quand même, 9 retraits sur toute la saison, quand 2 ans plus tôt, t'as été champion du monde. Quand même, hein. Pour le coup, il part de McLaren. Donc, en 79, il fait le superbe choix d'aller chez Wolf.
Hein. Alors,
Oh, non.
Alors, Wolf.
Ah oui, monsieur, j'ose.
Wolf, c'est simple, c'est 7 courses, 6 retraits. Super bon choix, hein.
Ah bah oui.
Et donc, à Monaco, voilà, à Monaco, un peu dépité, bah, il décide d'arrêter sa carrière, donc une carrière finalement assez courte. Puis, faut quand même revenir un peu sur le personnage de James Hunt. C'était un type quand même qui se baladait dans les paddocks, pieds nus, en jeans, en t-shirt. Et vous savez, il arborait un t-shirt où il expliquait quel était le petit déjeuner des champions.
Whisky.
Le sexe.
C'est le sexe. Ah, c'est... Il se baladait dans le paddock avec un t-shirt Sex Breakfast for Champions.
Chéri, je vais être champion du monde ce soir.
Bien évidemment, j'ai connu que c'était un fêtard invétéré, jusqu'à l'excès d'ailleurs, hein, parce qu'il a pas consommé que du tabac, non. Et il a consommé de l'alcool par litre entier. Ce qui n'empêchait pas d'être apprécié, hein, même par ses collègues, hein, il s'entendait très bien avec Niki Lauda. Il était très ami avec Ronnie Peterson, qui est un pilote suédois, qui est le modèle du pilote suédois, hein, donc très propre sur lui, c'est le total opposé, mais il s'entendait très bien. Et il faut savoir que James Hunt a permis à un grand pilote de Formule 1 de faire ses débuts. C'est un pilote francophone.
Villeneuve ?
Ouais. C'est parce qu'il l'a découvert en Formule Atlantique. Il a été très impressionné par le Canadien.
Il l'a découvert.
Mais non, mais la F1 l'avait pas encore découvert.
Oh, il y a un petit jeune que personne connaît, il s'appelle Jacques Villeneuve.
Non, Gilles.
Gilles.
Ah, Gilles.
Oh, mais
c'est pour ça, en fait, il avait pas bon.
Gilles. Sinon, enfin.
On est dans les années 70, quand même.
Ouais, je sais pas, mais il a vécu jusqu'en 90 et quelques.
13.
Donc, il a découvert... Enfin, il a été impressionné par Gilles Villeneuve en Formule Atlantique et il lui a offert, entre guillemets, une course chez McLaren. C'était la première course de Gilles Villeneuve en Formule 1, quand même.
Comment ça, il a offert une course chez McLaren?
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait mettre quelqu'un plus facilement qu'aujourd'hui.
Il n'y avait pas la limite de voiture, donc tu pouvais à la limite prendre une troisième voiture, louer une voiture.
Exactement, voilà.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, après son retrait, il a failli revenir dès 79. Ligier a voulu l'engager parce que Patrick Depailler avait eu un accident et c'est Wolff justement qui a mis son veto parce qu'il devait être encore sous contrat et donc il s'est reconverti. Alors il est pas resté très loin de la F1.
Il était commentateur.
Oui, commentateur sur la BBC.
Voilà, il a été commentateur avec fameux Murray Walker jusqu'à
sa mort.
Jusqu'à sa mort en 93, il est décédé à 45 ans, c'est quand même très jeune hein. D'un arrêt cardiaque. Et à l'époque, il s'était vraiment rangé, c'était plus du tout le feta et tout ça. Par contre, en tant que commentateur, il était du genre à balancer, à pas hésiter à dire qu'un pilote était nul.
C'est qui l'a insulté d'abruti, je crois?
La 13.
C'est René Arnoux.
René Arnoux.
À mon avis, c'est pas 13. Hein. Parce que Patrese, il l'avait dans le nez, parce qu'il le considérait, à tort d'ailleurs, responsable de l'accident de Ronnie Peterson.
Oui, oui. Alors que le pire, c'est que lui-même...
Ça vole dans une catégorie.
Non mais, c'est vrai, en plus...
Je sais même j'ai... pas de quoi tu
parles. Non, parce que j'ai dit qu'il était très ami avec Ronnie Peterson, et Ronnie Peterson est décédé à cause d'un accident, d'un carambolage, qui a en plus ou moins... Enfin, il a été parmi les responsables, mais lui-même... a préféré un peu rejeter la faute, en effet, sur Patrese. Et donc, vous savez, il y a un pilote, je vais pas dire actuel, mais récent, qui a rendu hommage d'une certaine façon à James Hunt.
Je dirais rien, c'est la réponse.
C'est connu.
Aucune idée.
Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est un peu le digne héritier.
Pour lui, c'est un rallyman, c'est pas un pilote de F1.
Ah, Raikkonen.
Ouais, Raikkonen, lors d'une, je crois que c'est une course de motocross.
Motoneige.
Enfin, exactement, de motoneige, et c'est ça, motoneige. Il s'est inscrit sous le nom de James Hunt.
5 jours avant Melbourne, quand même.
Ouais.
Son premier Grand Prix avec Ferrari, 5 jours avant, il se pente la gueule en Finlande en faisant une
course. C'est vrai que quand on connaît Raikkonen, il aurait été un coq en pâte dans les années 70, Raikkonen.
Ah, c'est clair.
Avec les fêtes, voilà. Donc voilà, c'était tout, sur ce champion du monde de la F1, Kate James Hunt, qui nous a quitté sans doute beaucoup trop tôt. Quand même, c'était jeune.
Et d'ailleurs, comme tu parles comme il a été commentateur sur la BBC, j'ai écouté aujourd'hui, parce qu'il y a un débat sur le site, sur les commentateurs, etc. Et je conseille beaucoup aux gens, s'ils ont l'occasion, c'est d'écouter, et s'ils comprennent l'anglais, d'écouter la course avec la BBC, parce que les commentaires sont d'une excellence. C'est incroyable, quoi. J'ai découvert la course en la re-regardant aujourd'hui.
Donc c'est tout pour l'éphéméride.
Ouais.
Alors vous le savez, quand... on est animateur du SAV, il est normal qu'on fasse une rubrique.
Plus ou moins. Ah, oui.
Vous le savez, bon, moi j'ai ma rubrique, Dinova sa rubrique, mais aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas Fab? N'est-ce pas Bichor?
Eh oui.
Tout à fait.
Alors, nous vous écoutons.
Le service après-vente de la F1 vous présente le Club 153, le club privé à côté duquel Santa Barbara peut aller se rhabiller.
Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi.
À la Santa Villa Scuderia Ferrari, rien ne va plus. Depuis leur séjour allemand, Felipe reproche à Stefano de privilégier Fernando, lui-même étant le protégé de Luca. Fernando ne se doute de rien et ne voit pas que Felipe souffre. Ce matin encore, ce dernier a reçu un SMS poignant alors que le couple dînait tranquillement au restaurant. Felipe, Fernando a oublié son portefeuille. Peux-tu me confirmer que tu as compris le message ?
À l'inverse, au château McLaren, tout va bien. Le flirt en Turquie semble avoir renforcé les sentiments du couple. Hier encore, Lewis et Jensen démontaient ensemble le stand McLaren, dans la joie, l'allégresse et l'amitié virile d'une soirée d'été belge. En attendant, le voyage en Italie, les deux hommes ont décidé d'une semaine de camping dans les Ardennes. Bien sûr, ils monteront ensemble leur tente.
Le périple stambouliote n'a en revanche pas été de tout repos pour Marc et Sébastien. Leur union est au plus mal. Le week-end à Valence n'a rien arrangé.
Qu'y a-t-il, Sébastien ? Demanda Marc, un verre de scotch à la main.
Tu m'as trompé et tu espères que je vais aller bien ? Lui lança Sébastien, une canette de Red Bull à la main.
Mais que dis-tu là ? Tu n'es pas dans ton état normal, je vais appeler Helmut et...
Non, non, des dizaines de personnes m'ont affirmé que tu étais monté sur Eiki, salaud.
Mais c'était un accident. Et puis moi, c'est Marc, pas Mika.
Sally, blessé, au plus bas, le jeune Allemand s'est laissé charmer par Adrienne et Chris. Le voyant se faire entretenir à grands coups d'ailerons flexibles et de contrats juteux, Marc a décidé de prendre le taureau ailé par les cornes et va faire payer à Sébastien son infidélité.
Eiki, manifestement pris dans la tourmente de cet adultère, est harcelé par Jarno. Le bel Italien est prêt à tout pour qu'Eiki lui revienne. Il l'a d'ailleurs menacé de montrer des photos. Le Finlandais, perdu, ne sachant que faire, a décidé de se confier à son ami venu d'Inde, Adrian. Ce dernier, totalement au fait des mœurs de ce monde, lui a conseillé d'ignorer ce genre de menaces, surtout venant d'un Italien. Il lança un regard noir à Vitantonio en pleine discussion avec Vigé.
Pendant ce temps, pour Nico et Nico, jeunes hommes blonds, c'est la dépression. Michael, le compagnon de Nico, et Rubens, le concubin de Nico, se sont retrouvés comme à leurs plus belles heures. « Je t'ai vu le plaquer contre un mur, » fit le fils de Kéké à l'encontre du baron rouge. « Tu t'es laissé faire !» lâcha Hulk à Rubinho. Pour faire bonne figure, Rubens accuse Michael de tous les maux. Mais à Woking, tout le monde sait que cette colère cache autre chose. Sans un moment de lucidité, nul doute que l'ancien couple se serait volontiers envoyé en l'air.
Non, loin de là. Et alors que Vitaly venait tout juste de rentrer dans cet univers impitoyable sous la protection du baron Renaud du Viry-Châtillon, il fut immédiatement accouplé à Robert. Eric, le nouveau maître des lieux, voulait faire table rase du passé et faire oublier le terrible Flavio. Malgré tout, l'expérience de Bob ne suffisait pas, et comme a pu dire Eric à propos de Vitaly, l'abeille coule ! La position du russe n'étant plus assurée au sein de la ruche, il dut ressaisir fermement la barre, ce qui fit dardard, allant même jusqu'à prendre brièvement le dessus sur Robert.
Au bord du lac Léman, dans la Villa Sauber, Camus s'est pris d'affection pour Pedro, le ténébreux latino à la tempe grisonnante et à la pédale souple. Ce week-end, alors que la température frôlait les 15 degrés, le jeune Nippon demanda à Pedro de l'arroser. D'eau chaude. Peter, le coquin entremetteur, voit cette relation d'un mauvais œil et espère pouvoir se débarrasser de Pedro. Lorsque ce sera fait, il pourra tranquillement aller prendre un bon repas chez Burger King, le roi du hamburger. Cette publicité vous est offerte par l'écurie BMW Sauber.
Dans la Casa Hispania, Bruno est en proie au doute. Il est confronté à un terrible dilemme. Il doit choisir entre Karun et Sakon. Son histoire passionnée avec Karun a commencé il y a 6 mois. Mais depuis quelque temps, il aime secrètement Sakon et son coup de volant ravageur. Bruno ne sait pas, Bruno ne sait plus. Car oui, avec Sakon ça roule et avec Karun ça colle.
Alors, Fernando parviendra-t-il, lui aussi, à comprendre les messages de détresse de Felipe ?
Que démonteront Lewis et Jensen la semaine prochaine ?
Marc va-t-il finir par écraser Sébastien comme une vulgaire canette ?
Jarno produira-t-il une vidéo haute définition cette fois-ci ?
Tant va la Barrichello qu'à la fin elle se brise ?
Robert et Vitaly butineront-ils dans le même sens ?
Peter mettra-t-il du Sauber dans ses épinards ?
Karun ou Sakon ? Karon ou Sakun ? Kakon ou Sarun ?
Parlerons-nous un jour de Virgin et de Toro Rosso ?
Vous ne le saurez pas dans le prochain épisode du Club 153.
Voilà.
C'est énorme.
Bon, ça vous a
c'est
plu,
magnifiquement hein. Écrit en tout cas.
Ouais.
C'est très bien écrit, il y a plein d'idées, c'est génial.
Alors, de ce point de vue-là, je dois donner tous les honneurs à Fabien.
C'est un travail d'équipe.
Moi j'ai fait le jingle, lui a fait le texte. C'était la répartition des tâches.
Non, puis vous êtes resté sérieux, c'est dur de rester
ah ouais.
Ce genre de truc.
Surtout ouais. Qu'il y a des serviettes qui rigolent.
Surtout avec les gens qui rigolent derrière.
Oh, c'est pas notre genre.
Sur ce.
La barre. Faut qu'on soit drôle, j'ai dit. Faut qu'on soit drôle.
Hein. Sur ce.
Non, sur ce, c'est pas drôle.
Sur ce, revenons à ce magnifique sport où des hommes s'emboîtent et se déboîtent. Dino, c'est à toi.
Belle transition.
Tonight, live from the studios of the SAV de la F1, two commentators will fight in a game where the rules seems to be made by the FIA itself. three tasks for one pole position. This is the Pole Man of the News.
Alors, messieurs, comme vous êtes nos invités, pourriez-vous nous rappeler rapidement les règles du Pole Man of the News?
Oh non.
Puisque si je l'explique, ça va être trop long.
J'ai un blanc.
Vas-y, Bouchard.
Non, non, j'ai un blanc. Joker.
Faut dire que les règles ont été toujours un peu floues, quand même.
Donc, vous allez être interrogé sur l'actualité en trois manches. Une première manche qui s'appelle « Question pour un champion de la F1 ». Bref, une question digne de Julien Lepers sur une citation. Ensuite, la deuxième manche, le sprint de l'actu, où vous aurez 90 secondes pour répondre à 10 questions sur l'actualité récente. Et enfin, vous aurez la mythique, cette question si facile quand on connaît la réponse, la question actu qui passe inaperçue. Alors messieurs, ouais. Vous le savez, comme d'habitude. Les grands esprits se rencontrent. Vous allez avoir le choix entre différents menus, différents titres. Et là, je vais vous proposer, on va donner l'honneur à Fab007 qui a gagné le dernier jeu. Puis après, à Bûcheur, parce que c'est le deuxième invité. Et si tu hésites, tu prendras ce qui reste.
Normal.
T'es habitué au truc un peu pourri. Alors, vous avez le choix entre Zeebrugge, entre Rizn et entre McElendigem. Et là, vous dites, d'où viennent ces noms? Savez-vous ce que ces noms?
C'est des noms de villes?
C'est des noms de villes en Belgique, mais c'est pas n'importe quelle ville. Ce sont des autour villes de Spa. En Belgique où si vous vous rendez, vous pourrez dormir dans un hôtel Formule 1.
Oh mon dieu.
Et je vais te demander, Fab007, de me dire dans quel hôtel tu préférerais aller dormir.
Oh ben, je vais prendre McElendigem.
Oh, tu es courageux, Fab.
Je suis courageux.
Ensuite, Bûcheur, il te reste donc Zeebrugge ou
Rizn. Zeebrugge.
je le savais.
Alors, c'est le plus facile.
Donc, alors, je prends, vous allez commencer dans l'ordre exact où ça apparaît sur ma feuille. Et là, il se trouve que c'est, comme par magie, Fab007 qui va commencer.
Pour une fois que c'est pas moi.
Suivi de Bûcheur. Et enfin, le champion en titre, Shinji. Alors, Fab, je vais te citer une citation. Et je vais te donner des indices par la suite. À la Julien Lepers. En fonction du moment où tu vas trouver la bonne réponse, en disant McElendigem pour m'arrêter, tu remporteras soit 4, soit 3, soit 2, soit 1 point. Et si tu trouves le contexte dans lequel a été dit cette citation, tu doubleras tes points.
D'accord.
D'accord,
d'accord.
Quand tu es prêt, tu me dis que tu es prêt.
Je vais le dire en belge.
Oh.
McElendigem.
Alors attention, chers auditeurs, indice, au fond du paquet de chips. Ça rime en plus. Interrogé par l'agence de presse SID après la course de Spa-Francorchamps, je déclare « La pire des choses, c'est lorsque des experts autoproclamés, et j'en fais partie, se mettent... »
McElendigem.
Oui.
Schumacher à propos de la bourde de Vettel.
Oh la vache. Direct, ouais. J'ai 4 points dans la gueule, les mecs.
Ouais. Je le savais aussi. Je l'avais
ouais,
dit.
Moi aussi.
C'est même 8 points, puisque tu m'as donné le bon contexte, à propos effectivement de la faute de Vettel, c'est 8 points. Est-ce que je vous lis la suite ou on s'en passe?
Ouais, ouais.
Ah, ouais,
on s'en passe, hein.
Non, vas-y. Lis la suite.
Pilote de Formule 1, je fais mes débuts en monoplace en Formule Ford 1600, où je termine deuxième du championnat d'Europe au sein de l'écurie Euphra. Rapidement promu en Formule 3 au sein de l'écurie WTS, je remporte le championnat dans ma deuxième saison, avec à la clé une victoire de prestige à Macao, où je n'ai pas du tout triché, contrairement à ce que certains osent dire. Doublure du pilote franco-belge Bertrand Gachot, c'est en carburant au 7-Up que je fais mes débuts en Grand Prix en me qualifiant à une prometteuse 7e place avant d'abandonner dès le premier tour. Un an plus tard, de retour en terre ardennaise, je remporte ma première victoire d'une longue série en Formule 1 qui compte 91 victoires en Grand Prix et 68 pole positions. Ah bravo, qu'est-ce que c'est fort. En 2006, je me retire de la F1 avant de revenir 3 ans plus tard avec l'ambition de conquérir un 8e titre de champion du monde et Dieu sait que c'est mal barré. Je suis Michael Schumacher. Bravo Fab.
Avec l'accent.
Bravo.
Merci.
Ça fait 8 points, je crois qu'on n'a jamais marqué 8 points dans le jeu.
Oh carrément.
Alors Bûcheur, attention, c'est à ton tour. Alors, es-tu prêt, Bûcheur?
Zeebrugge.
Donc, attention, chers auditeurs, indice, en dessous du poisson qui se trouve dans mon bocal. Je sais, vous ne le voyez pas, mais moi, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et c'est parti. Dans Auto, Motor und Sport, j'avoue à propos d'un pilote que l'an passé, il me faisait rire, avant de reconnaître que, je cite, « je n'aurais jamais cru qu'il avait autant de potentiel. Pour moi, il est avec Rosberg la surprise de la saison. » pilote de Formule 1, né le 27 août 1959. Je fais mes débuts en Formule 1 pour le compte de l'écurie Autotechnische Spezialist BR BMW, avec laquelle je signe une prometteuse 6e place lors de mon 3e Grand Prix, même si je ne reçois pas le moindre point en raison d'une subtilité réglementaire de la FIA. Promu chez Benetton, puis Arrows, je rejoins Ferrari et obtiens en Australie et au Japon les deux seules victoires de l'écurie de la saison, avant de migrer chez McLaren 3 ans plus tard. Répondant une nouvelle fois aux sirènes de Maranello, je dois cependant céder ma place à Michael Schumacher. Remplaçant le pilote allemand chez Benetton, je quitte la F1 en 97, avant de revenir 10 ans plus tard avec des responsabilités chez BMW et Toro Rosso. Je suis Bouchard.
Aucune idée. Aucune idée.
Attention, alors attention, Fab et Shinji, le plus rapide.
McKellen Diggen.
Berger. C'est effectivement Gerhard Berger.
Et donc là, je viens de faire démonstration de mon niveau absolument exécrable.
Et là, les gens se disent, mais comment il peut participer à l'émission après avoir gagné
Parce que j'ai eu de la chance. J'ai mort des couilles.
Et savez-vous donc dans quel contexte, on va d'abord donner la priorité à Bouchard, dans quel contexte a-t-il pu le dire, plutôt à propos de qui, a-t-il pu dire, l'an passé il me faisait rire, je n'aurais jamais cru qu'il avait autant de potentiel, pour moi il est avec Rosberg, la surprise de la saison.
Je sais pas.
Attention les garçons, le plus rapide.
Weber?
Non.
Non, je l'ai eu en plus.
C'est la guerre, allez-y, dites des noms.
Hülkenberg?
Non.
Non, c'est pas
Kobayashi?
Non, il est tellement invisible qu'on pense pas à lui.
Rosberg?
Non, bah non.
Algar Soiré?
Non, l'autre.
Suzy?
Suzy, bravo Suzy. Donc, nous avons jusque pour le moment, nous avons 8 points pour Fab 007. 0 pour Bouchard, excuse-nous Bouchard.
Normal.
Et Shinji qui a 2 points sans avoir même joué une seule seconde. Donc Shinji, es-tu prêt?
Oui.
Attention, auditeur, indice au fond du caleçon de Shinji.
Ah bah attends, faut que je regarde.
Non, ce n'est pas un joueur de foot qui joue au Real Madrid. Hein.
Es-tu prêt, Shinji?
Rin.
Amené à réagir sur les événements survenus pendant le Grand Prix de Hongrie, je déclare, je cite, « Dans de telles situations, il est important de se dire à soi-même et aux autres, j'ai foiré, un point c'est tout. Fils de la grande bourgeoisie de mon pays, je finis par couper les ponts avec ma famille qui perçoit de façon négative ma passion pour le sport automobile, ce qui ne m'empêchera pas, cependant, d'utiliser mon nom afin de contracter...
Rin?
Oui.
Bruno Senna?
Non. Ce qui ne m'empêchera cependant pas d'utiliser mon nom afin de contracter des prêts pour financer ma carrière, alors que je ne vis que de petits boulots. Après
Rin?
Début, oui.
Niki Lauda?
Oh oui, bravo! Et tu marques 2 points, Shinji. Et peux-tu me dire dans quel contexte il a dit cette phrase?
Peut-être par rapport à Vettel?
C'est
qui a foiré encore une fois.
Ça fait donc que tu multiplies par 2 tes points que tu viens de gagner. Ça fait 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Donc au terme de cette première manche, nous avons en tête Fab avec 8 points. Juste derrière lui, dans son échappant, nous avons Shinji avec 6 points. Et enfin, très loin derrière, façon Fernando Alonso, nous avons Bouchard.
Ah, moi je suis resté sur la grille en fait.
Tu as calé.
Ah non, c'est que je cherche comment démarrer la voiture.
Donc, nous allons justement commencer avec toi, Bouchard. C'est le sprint de l'actu. Donc, tu as 90 secondes pour répondre à une série de questions. Il y en a 10. Soit tu connais la réponse, tu me donnes la réponse et tu remportes un point à chaque bonne réponse. Soit tu ne connais pas la réponse, tu passes. Ou alors tu as le droit de te tromper. Chaque question passée ou chaque question où tu t'es trompé, je reviendrai dessus pour que tu puisses avoir ta chance dans la limite des 90 secondes.
Okay.
Donc tu me dis quand c'est parti et quand tu es prêt, je lance.
Je suis prêt, tu peux y aller.
Et quel pilote a été engagé par Pirelli pour ses essais?
Heidfeld.
Tout à fait. Qui va remplacer Martin Whitmarsh à la présidence de la FOTA?
Je passe.
Pour le compte de quelle écurie Romain Grosjean a-t-il remplacé Opintung en GP2?
Je sais pas.
Quel célèbre sponsor associé à Lola, autrefois, devrait faire son retour la saison prochaine chez Renault ou Williams?
Je sais, mais je passe.
Quel pilote espagnol a quitté son 3e baquet chez Virgin?
Je sais pas ça.
Pour quelle raison Bruno Senna convie-t-il ses fans à lui dessiner un nouveau casque?
Je passe.
Quel pilote a impressionné au triathlon de Kitzbühel avec un chrono de 2h07?
Button?
Faux. À 50 euros près, quel est le montant de l'amende infligée cette semaine à Lewis Hamilton après l'affaire de Melbourne?
Aucune idée.
Quelle écurie va faire rouler en septembre prochain un pilote de 16 ans engagé en Formule BMW Pacifique?
Renault.
faux. Quel acteur de la F1 a évité la prison mais a écopé d'une amende de 360 000 euros suite à la faillite de sa société?
C'est le manager Schumacher, je sais plus.
C'est bon, Willy Weber. Qui va remplacer Martin Whitmarsh à la présidence de la FOTA?
Je sais pas.
Pour le compte de quelle écurie Romain Grosjean a-t-il remplacé Hopintung?
Renault?
Allez, je vais te donner les points. Et c'est terminé. C'est pas Renault, c'est Dams, mais c'est l'écurie, c'est le junior team.
GP2.
Ouais, c'est.
Donc Renault, c'est les mêmes couleurs, donc c'est on accorde la réponse. Ça te fait donc 3 points.
Ok, c'est gentil, merci. Ouais.
On revient sur les questions où tu as passé ou tu as échoué. Qui va remplacer Martin Whitmarsh à la présidence de la FOTA?
Adam Parr.
Je sais que c'était celui de chez William, je ne sais plus son nom. Donc.
Alors d'ailleurs, c'est très rigolo parce que vous remarquerez que jusqu'à présent, les mecs à la présidence, c'était Luca Di Montezemolo, c'était Briator, là c'était Martin Whitmarsh et le vice-président, je crois, c'était Stefano Domenicali. Et comme par hasard, maintenant qu'il n'y a plus de bisbille avec la FIA, les deux mecs démissionnent et donnent le poste de directeur à Williams. Et le poste de vice-président, il le donne à Franz Tost de chez Toro Rosso.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, il y a du lourd.
Ça donne bien une idée des relations actuelles entre FIA et FOTA, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose.
D'un autre côté, tu comprends pourquoi ils mettent un mec de chez Williams à la tête. Ils savent que c'est un peu comme le répondeur. Dès que la FIA va demander un truc, en face, ça va être non.
Non.
Non. Non.
Ensuite, quel célèbre sponsor associé à Lola autrefois devrait faire son retour la saison prochaine chez Renault ou Williams?
Je sais plus.
Shinji, Fab?
Hein?
Non, je sais plus.
Ouais.
Mastercard?
Vilaine, Lola. Je connaissais son temps, mais je savais plus, ouais.
Qu'est-ce que c'était moche, cette voiture.
Ensuite, quel espagnol a quitté son baquet de troisième pilote chez Virgin? C'est une question assez pointue. Déjà, faut connaître les troisième pilotes.
Ouais.
Non, mais déjà, je connais un que pilote sur les deux de chez Virgin.
Ouais, alors. C'est qui le pote de Glock, là?
C'est clair.
Alors, le pilote espagnol qui est parti, c'est Andy Soucek, qui a été champion F2, le premier champion F2, d'ailleurs, l'année dernière. Mmh. Ensuite, pour quelle raison Bruno Senna convie-t-il ses fans à lui dessiner un nouveau casque?
Pour changer de marque de son oncle, peut-être?
Ouais, parce qu'il Ayrton aurait eu 50 ans, c'est ça?
Voilà, c'est pour célébrer les 50 ans qu'aurait eu Ayrton cette année. Oh, quel pilote a impressionné au triathlon de Kitzbühel avec un chrono de 2.07? Button, c'est au triathlon de Londres, mais...
Non, il fait pas tous les triathlons non plus.
À Kitzbühel, c'est?
Vettel?
Weber?
Non.
Rosberg,
bravo Bucher. Allez Bucher, un point de plus. À savoir qu'il a quand même battu Button, qui a fait son triathlon en 2h14. Bon, battu, ça veut rien dire, hein, parce que c'est...
Oui, c'est pas le même.
Ouais, mais Button, il démontait le vélo, lui.
Oui, voilà. Et il était malade.
Ah oui, c'est vrai, en plus, il était malade.
Ensuite, à 50 euros près, quel est le montant astronomique de l'amende infligée cette semaine à Lewis Hamilton après l'affaire de Melbourne?
C'est pas 500, 600 dollars, un truc comme ça?
C'est 500 dollars, effectivement, soit 350 euros.
C'est de la petite monnaie.
Oui, franchement, ils se foutent de là. Et ils nous ont fait tous des pataquès, etc. En disant, oui, c'est grave, on veut faire un exemple. Le mec, il prend 350 euros d'amende.
Ouais. Même pas un dixième des frais d'avocat, je parie.
C'est pour ça qu'il est pas allé, ça coûtait trop cher en avion.
Ça représente le prix de ses pompes, quoi.
Alors, quelle écurie va faire rouler en septembre prochain un pilote de 16 ans, prénommé Nabil Jeffrey, engagé en Formule BMW Pacifique?
Force India?
Sauber?
C'est l'autre.
Red Bull?
Non, c'est Lotus. L'autre encore. C'est Lotus. Ah, oui. Alors, ça nous fait donc 3 points pour Bouchard au terme de cette deuxième manche, mais il nous reste encore 2 candidats. Shinji qui a 6 points et Fab qui a 8 points. Alors, Shinji.
Oui, je suis prêt.
Et quelle banque a préféré sponsoriser la Formule 1 en 2011 plutôt que Sauber?
UBS.
Correct. Quel pilote de Formule 1 inaugurera le 4 septembre prochain le tracé coréen sur une Red Bull?
Vettel?
Faux. À qui Force India devra-t-elle verser 1 074 730 euros plus 8% d'intérêt avant le Grand Prix d'Italie?
Je passe.
Oh, t'as pas le droit. Quelle écurie serait actuellement en négociation avec Carlos Slim pour un partenariat en 2011?
Sauber.
Correct. Quel pilote français est devenu à Silverstone champion de F3 britannique?
Je passe.
Selon la presse espagnole, quel circuit aurait refusé l'offre de Bernie Ecclestone de remplacer le Grand Prix de Corée en cas d'annulation?
Motorsport Aragon.
Tout à fait. Quel pilote est devenu pour la troisième fois papa d'un petit Justus cet été?
Trulli.
Faux. À 10 millions près, à combien est estimé le coût du circuit d'Austin?
350 millions.
Faux. Quelle écurie a fait l'objet de rumeurs durant la trêve quant à une fusion avec Epsilon Euskadi?
HRT.
Correct. De quelle écurie de GP3 pour laquelle il a couru en GP2, Luca Di Grassi est-il devenu actionnaire minoritaire?
Ocean Racing.
Faux. Quel pilote de Formule 1 inaugurera le 4 septembre prochain le tracé coréen sur une Red Bull?
Weber.
Faux. Et c'est ce qui porte ton total de points à 4 sur ce sprint. Je dis, tu es en perte de vitesse.
Oh, et oh.
Tu fais un total donc de 2 points.
Oui.
Alors, quel pilote de Formule 1 inaugurera le 4 septembre prochain le tracé coréen sur une Red Bull?
Ah là, j'ai pas d'idée.
C'est pas un pilote Red Bull, justement.
Oui, c'est pas un pilote Red Bull.
Je l'ai lu, mais ça m'a choqué parce que c'était pas un pilote Red Bull.
Mais c'est un pilote...
C'est un pilote coréen?
Non.
Je sais pas, c'est pas Edgar Suari.
Sato?
C'est pas Edgar Suari, c'est pas Sato. C'est un pilote qui est encore en contrat en F1 cette année.
Ah, Shandok?
C'est Shandok, effectivement.
Ah, ouais. Ouais. Donc, il va avoir peur avec la vitesse, là.
Ah, il est pas habitué.
C'est surtout que pour moi, je trouve ça, c'est un test déguisé, en fait.
Non, mais en fait, c'est un test pour le WRC, hein, parce que quand on connaît l'état de la piste en Corée...
Ensuite, Shinji, tu n'as pas le droit. À qui Force India devra-t-elle verser 1 074 730 euros plus 8% d'intérêt avant le Grand Prix d'Italie? Tu n'as pas le droit de savoir, ça fait l'objet d'une question. Il y a quelques émissions.
Aérolab?
Aérolab.
Le Aérolab? Ah, oui.
Ah. Ensuite, quel pilote français est devenu à Silverstone champion de F3 britannique?
Non, ça j'ai pas.
C'est Jean-Éric Vergne.
Ah bah oui.
Oui, oui, j'ai vu le nom dans F1 Racing, je crois.
Faut surtout pas oublier le N d'ailleurs. Ça, j'ai oublié le N.
Oui.
Oh là là.
Excusez-moi.
C'était petit.
Bah, je sais pas.
On sait pas. Hein.
Quel pilote est devenu pour la troisième fois papa d'un petit Justus?
Alors là, pas
c'est là qu'on connaît ceux qui lisent les articles qu'on écrit sur le blog.
Ah mais c'est Heidfeld.
Bah oui, c'est Heidfeld.
Il arrive à la bourse au GC Pirelli.
Justus, oh, c'est beau ça.
Oui, Justus, c'est ça.
Mais tu sais bien que je m'intéresse pas à ce genre de truc.
Ouais, mais tu pourrais quand même lire quand même les articles, c'est écrit dans l'article.
Oui, mais je lis, mais il y a des trucs que je retiens et d'autres que je retiens pas.
Ouais,
et
ouais.
Ça, je retiens pas.
À 10 millions près, à combien est estimé le coût du circuit urbain d'Austin? Il coûtera sans doute 350 millions d'euros à la fin.
Ah, c'est
240, non?
Non.
Comme ça.
200?
C'est pas cher. 180 150 millions de dollars.
Oh, ça
soit
va.
140 millions d'euros.
Ouais.
Contrairement à ce que tu as dit lors d'une précédente émission, ça ne sera pas un billard, Shinji.
Ah, bah, je suis content.
On a vu
j'avais des peur que ce soit.
On a vu des billard. Photos du terrain, c'est un vrai terrain vague. Mais vague, il y a vraiment le mot vague, il est pas
ah. Putain. Je suis content.
Et enfin, donc, de quelle écurie de GP3 pour laquelle il a couru en GP2, Luca Di Grassi est-il devenu actionnaire minoritaire?
Là, j'ai pas d'idée, j'ai lancé un nom, mais...
Écurie Adax.
Adax.
Ex Campos.
Ah, Adax.
Alors, Fab, on va remettre compteur à zéro, et tu me dis quand tu es
prêt. Bon, bah écoute, je suis prêt. Hein.
À combien de Grands Prix Rubens Barrichello affirme-t-il avoir porté son propre record de longévité en Formule 1?
300.
Correct. Quel pilote a remplacé Nick Heidfeld à la présidence du GPDA?
Ah. De la Rosa.
Faux. De quelle nationalité est la banque Snorras, nouveau partenaire de l'écurie Renault?
Russe.
Faux. Quel sponsor a fait son apparition sur le profil de l'aileron arrière de la Sauber?
Je passe.
Selon Autosprint, quelle écurie pourrait aligner Jules Bianchi en Grand Prix la saison prochaine?
Ah. Sauber, mais je sais plus si c'est
correct. Ça. À quelle discipline automobile aimerait également participer Kimi Raikkonen?
DTM.
Faux. Quel ingénieur a été victime d'un accident sans conséquences graves lors du meeting de BTCC de Snetterton?
Newey.
Correct. Quel poids est désormais appliqué lors des tests de flexibilité d'aileron?
50 kilos.
Faux. Quel état du Moyen-Orient souhaiterait accueillir à son tour un Grand Prix?
Le Qatar.
Correct. Selon Rubens Barrichello, comment Michael Schumacher se serait-il excusé?
En pleurant.
Par SMS, je sais pas.
Oui, par SMS, bravo. Quel pilote a remplacé Nick Heidfeld à la présidence du GPDA?
Barrichello.
Correct. Et enfin, de quelle nationalité est la banque Snorras, nouveau partenaire de l'écurie Renault?
Brésilienne, je sais pas.
Faux, et c'est la dernière. La réponse était lituanienne.
Oh bah oui.
Ah ouais. Bah oui, c'est évident.
C'est aussi une filiale de Renault, non?
Non, non, c'est des vraies banques.
Ah bon?
Pour le coup, c'est des vraies banques. C'est vraiment la stratégie de Renault, hein, tous les vers les pays de l'Est, et ça semble marcher puisque avec un pilote polonais et un pilote russe, ils attirent des sponsors venus de l'Est. Et c'est vrai que ça, pour le moment, en Formule 1, ces sponsors-là ont du mal à venir. Ouais. Ensuite, quel sponsor a fait son apparition sur le profil de l'aileron arrière de la Sauber?
Personne.
Bah oui.
Non.
C'est Mad Croc, hein, une boisson énergétique.
Mais bien sûr.
Il y avait plein de photos, les mecs, vous n'avez pas le droit.
Je préfère Burger King.
Le roi du hamburger.
Le roi du hamburger.
À quelle discipline automobile aimerait également participer Kimi Raikkonen?
Ou 24 heures du Mans.
Quel poids est désormais appliqué lors des tests de flexibilité d'aileron? Fab, tu nous as dit 50 kilos. C'est le poids qui était appliqué
avant,
quand ils avaient les ailerons flexibles. Mais maintenant qu'ils ont des ailerons plus flexibles, c'est 100 kilos.
Ouais.
Et ça, apparemment, ça devrait peut-être même encore augmenter.
Ouais, ça va grimper encore.
Et
2 tonnes 8, bien.
Et c'est tout ce qu'il y a comme mauvaise réponse, puisque tu nous as fait un score total de 6, ce qui porte son total à 14. Donc, aucun changement au classement général. Nous avons Fab, toujours en tête, avec 14 points. Devant Shinji, avec
10.
Et enfin, Buchor, avec...
Loin derrière.
Loin derrière.
Youhou.
Avec 3 points. Mais nous arrivons dans la manche finale. La question actuelle qui passe inaperçue. Et bon, généralement, cette question actuelle qui passe inaperçue, ça permet de gagner 10 points d'un coup. Mais là, on va faire un effort, ça permet de gagner 12 points d'un coup.
Juste pour vous laisser des... encore une éventuelle chance microscopique de gagner.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou, l'actu, où es-tu?
Attention messieurs, êtes-vous prêts pour cette question actu?
Oui.
Oui. Oui.
Ma question comme d'habitude est très simple. Je veux juste savoir avec qui Kimi Raikkonen a-t-il échangé le volant et pour quelle raison?
Wow.
C'est généralement les faits. Il y a un accident de...
C'était à l'occasion du Grand Prix à Spa?
Non.
Est-ce que ça, c'était un WRC?
Non.
Est-ce que c'est avec un pilote de Formule 1?
Oui.
Avec Sébastien Vettel?
Oui, et pourquoi?
Parce qu'ils font du badminton ensemble.
Ah, trop fort, c'est dit!
Oh là 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 là.
Et donc, ils s'échangent le volant.
Oh, ça... Oh.
Il a dit, il y a eu une interview, il a dit qu'il avait quasiment plus aucun contact avec la F1, sauf avec Vettel, qui est son voisin en Suisse. Et donc ils font du badminton.
Je reconnais que c'est une question actuelle qui passe inaperçue, toute pourrie.
Ah bah elle est bien pourrie celle-là.
Là c'est une victoire à l'expérience les gars. Hein.
Mais, ah comme, ouais, non, mais là, comme on était trois, je me suis dit, faut faire une question actuelle qui va... J'espérais qu'elle dure plus longtemps quand même. Il me connaît trop bien. Et là,
ah non mais arrête, quand t'as dit Raikkonen, je me suis dit merde, faut pas que je me foire.
Et donc, ça nous fait donc une victoire de Shinji au total, avec 22 points.
Bravo.
Contre 14 pour Fab et 3 pour Buchor.
L'essentiel, c'est de participer.
Donc, bravo Shinji, tu maintiens, merci, l'honneur du SAV.
SAV.
C'est un animateur qui gagne le seul en même temps qu'il joue.
Et quand c'est fini, on passe à la course.
Ouais.
Ouais.
Et quand, qui dit course, dit calife.
Place ouais. Du coup.
J'ai même pas fait gaffe qui était à la place du con sur
le... Ah mais là il y en a 3 cette semaine.
Ah punaise.
Et les 2 Sauber.
Et Petrov.
Ah ben oui.
C'est ça.
Mais ouais. Petrov là pour le coup c'est quand même le gros con d'histoire quand même.
Ah oui.
Ah ben oui.
Bon alors écoute bien Vitaly, tu fais un tour, enfin non, tu fais 3 virages et tu te gaufres.
Tu te gaufres.
Voilà, ça va arracher la qualification. Ça va nous assurer une place en Q2 pour Robert.
C'était même pas sur un tour rapide, pas un tour de sortie, c'était juste, vous savez, le tour qu'ils font, le premier tour où ils sortent, ils rentrent. Donc vraiment, c'est le tour pépère juste pour voir si la voiture va bien.
Bah ouais.
Bon, oui. Elle allait plus très bien, mais... Et à noter qu'on a quand même eu 5 rétrogradations.
Ouais.
Ouais.
Il est arrivé.
C'est dur, hein.
Tu sais, arrivé.
Ah bah depuis qu'il a
fait français.
Je suis français, je suis une...
Puisque Shumi, c'est classé 11e, a été rétrogradé de 10 places par rapport aux événements en Hongrie.
C'est quoi ce ouais?
Nico Rosberg, 12e, a perdu 5 places parce qu'il a changé de boîte. Ouais. Timo Glock, 17e, a perdu 5 places pour avoir gêné Yamamoto.
Oh, c'est con quand même.
Duemi, 15e, a perdu 3 places pour avoir gêné Rosberg.
Ouais.
Alors, pourquoi Alain 5? Pourquoi Alain 3?
Mais non, mais je pense que c'est en fait, ils ont pris 5 places chacun. Et en fait, final, avec l'application des règles, alors des fois, t'as même des mecs qui sont pénalisés, mais au final, ils gagnent des places.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la FIA.
Et donc, De La Rosa, 22e, a perdu 10 places pour changement de moteur. puisque De La Rosa rentre dans l'histoire, il est le premier à utiliser un neuvième moteur.
D'ailleurs, je trouve intelligent ce qu'a fait Sauber sur le coup.
Ah, c'est très très intelligent.
Mais on l'avait dit, je crois, l'an dernier à propos de Vettel, que peut-être qu'à un moment donné, Red Bull aurait dû profiter justement d'une mauvaise qualif de Vettel,
ouais,
lui mettre un neuvième moteur.
Oui, sauf qu'une mauvaise qualif de Vettel, c'était 6 ou 7e. Mauvaise qualif de
c'est ça le Sauber.
Voilà. Non, mais c'est 22e, et c'était clair que c'était intelligent parce qu'il passait de 22 à 24, il savait qu'en deux virages, c'était rattrapé. Voilà, j'ai trouvé. Très intelligent d'avoir fait ça.
Et donc, de l'autre côté de la grille, encore, toujours, pour la je ne sais plus combienième fois cette saison.
Oh, on a arrêté de monter.
La 6e pole pour Mark Webber, la 17e pour Red Bull, la 172e pour Renault, à une moyenne de 238,371 km/h, avec un temps de 1,45,778. Mark Webber, il n'y a plus rien à dire, hein, de toute façon.
Ils en sont à 12 pôles cette saison, hein. Je crois que c'est pas loin. Ouais. Je crois que le record, il doit être à 15 ou 16. Ils peuvent peut-être essayer de le taper, hein.
Attention, parce que je crois que le record doit être à plus de 20, hein.
Mais
près de 2.
Le vrai record, ça serait par saison, vraiment par saison. Ouais. J'aimerais savoir combien il y a de pôles, maximum.
Et c'est toi, pour une fois, on a eu un temps relativement serré, on va dire, parce que Hamilton est deuxième en 1,45,863.
Ça a bien fait chier Robert Kubica.
Ouais.
Ah oui, ça.
Ouais. Kubica, faut le noter quand même, troisième en 1,46,100.
Ouais.
Ce qui profitait de belles courses pour la Renault.
Ouais.
Quelque chose à rajouter sur la qualif?
Juste que quand même, je crois que personne n'avait vu venir la pole de Webber.
Bah, c'est vrai que sur l'ensemble du week-end, Alonso a vraiment bien tourné vendredi, même si les Red Bull étaient pas mauvaises. Ils ont surtout magnifiquement vendangé la qualif.
Oui. Moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout qu'il s'est mis à pleuvoir à la fin, et c'est à ce moment-là que Webber. Voilà, c'est surtout ça qui m'a surpris. Pas forcément la méforme des Red Bull, ouais, pas la méforme, mais disons qu'elles sont pas très adaptées à Spa, qui est un circuit rapide,
Il y en a aussi certains qui disent que elles ont plus les mêmes ailerons, donc nécessairement.
Oui, il faut juste que réduire un peu l'avance qu'ils avaient.
On passe à la course.
Moi, j'ai un truc que j'ai bien aimé pendant la qualif. C'est dans la Q1, je crois, quand il a commencé à pleuvoir. Tous les mecs se sont sortis.
Ah oui.
Et là, t'as eu, je crois que c'est deux, trois tours où les mecs, en fait, ont fait des courses. Ils étaient en train de se battre pour être devant, etc. Parce que les mecs voulaient pas être gênés.
Non mais
j'ai pas souvenir d'avoir vu une qualif, un moment de qualif aussi excitant en peloton, ouais. Une qualif en peloton, je n'ai pas souvenir.
Non mais c'est drôle parce qu'en plus ils se plaignent tout le temps que le gars qui est devant le gêne alors qu'il est genre deux virages plus loin.
Là ils ont rien dit.
Oh, ils ont rien
dit. Oui, y a personne qui a rien dit.
On passe à la course.
Allez.
Oui.
On
passe.
Et au top 10, qui est en fait un top 12.
Non.
Non, je plaisante.
Cette semaine, le top 10 est un top 10. Et Dino, tu vas être content, il n'y a pas d'ex-aequo cette semaine.
Alléluia.
C'est grâce à nous, ça, c'est grâce à nous.
Ouais. Donc, ont été cités, mais ne sont pas dans le top 10. Et on va commencer avec Buchor, qui a mis une 10e place à Button.
Oui. Il faut peut-être que je justifie.
Bah, pourquoi? Voilà, parce que c'est vrai que quand tout le monde vote pour un gars, on se dit, ça paraît évident. Quand un type vote quand même pour un gars.
Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il avait fait un bon départ. Il avait, en gros, il s'était accroché derrière Lewis, hein, et puis il suivait le rythme. Alors, c'est sûr qu'il avait Vettel derrière qui remontait et qui a essayé de le dépasser. Mais je pense que, en tout cas, il aurait au moins résisté un moment à Vettel. Ouais. Je pense pas qu'il aurait pu être dépassé comme ça. Donc après, je pense que c'est les stratégies qui auraient joué ou quoi, mais je pense qu'il était bien parti pour être sur le podium, donc je voyais bien, et c'est sûr que bon, sur la malencontreuse manœuvre de Vettel qui s'est merdé sur le freinage, ça arrive, mais je pensais qu'il méritait quand même de figurer dans le top 10, même s'il avait abandonné.
Par contre, le dépassement de Vettel était pas gagné, et je pense que c'est justement ce qui a mis la pression, puisque Hamilton a déclaré vendredi que lui, son plan, c'était justement de jouer sur la vitesse de pointe de la McLaren, qui était plus forte à Spa, pour doubler Webber après la source. Et les Red Bull étaient très bonnes dans le deuxième secteur. Là où n'était pas bonne les McLaren, et par contre les McLaren récupéraient leur retard dans le premier, dans le troisième secteur, qui sont en pleine charge. Donc finalement c'était le yo-yo, et peut-être que Vettel n'était pas forcément très sûr de pouvoir faire le dépassement et qu'il a voulu le précipiter.
Ouais, pour parler de Vettel vite fait, c'est surtout, je dirais, il a été trop impatient sur le coup. il a cherché à attaquer absolument Button plutôt que de lui mettre la pression et de le pousser à la faute. Ce qui aurait été une meilleure stratégie, je pense, que de tenter. Et on voit, c'est dans la précipitation, ça a pas marché, quoi.
On a discuté tout à l'heure, Bûcher, en plus, mais c'est vrai que, Vettel, son vrai problème, c'est vraiment l'impatience, quoi. C'était pareil en Turquie, quoi. C'est qu'il a quand même des difficultés à se dire que il va falloir qu'il reste derrière. Il voit pas bien qu'au championnat, il est quand même pas bien placé par rapport à la voiture qu'il a. Il pourrait archi dominer le championnat. Et puis finalement, il se retrouve dans une position où il est toujours obligé, finalement. Il se sent obligé d'attaquer. Et encore une fois, là, je pense que vraiment, s'il avait attendu un peu, il aurait finalement eu raison de Button. Bon, peut-être avec plus d'écart avec Hamilton, mais au moins il serait passé et il serait évité une course galère comme il a eu, quoi.
Non, puis en plus on a vraiment l'impression qu'au fil des courses ça s'accumule, c'est pas
ouais.
Je veux dire, c'est pas comme si ça s'était arrêté, il s'était dit bon là faut que j'arrête, faut que je me ressente sur la course. Là ça fait quand même 4 courses et alors en plus il commence à accumuler du retard, du stress quand même. Ça s'accumule, c'est-à-dire que là, il est pas vraiment sur une pente ascendante. Hein.
Il faut souligner l'intelligence de Weber. Il a compris la faiblesse de Vettel. Oui. Compris comment il fallait manœuvrer. Il a trouvé comment entre guillemets le battre en interne.
Oui.
C'est en lui mettant la pression, en le mettant dans des situations où il se met à disjoncter. Mais je pense que de ce point de vue-là, le Grand Prix de Turquie a été un vrai tournant, parce que c'est Ice Manner sur le site qui dit Vettel n'est pas si mature que ce qu'on le dit. Et c'est vrai que ceux qui défendent Vettel, et je fais partie des premiers à le défendre, disent qu'il impressionne par sa maturité. Il a une maturité en piste qui est vraiment énorme, quoi. Je me rappelle de Paul qui faisait l'an dernier où il faisait un tour et il te sortait un tour parfait, quoi. Vraiment une maturité que par exemple je retrouve cette année plus chez Hamilton. Et je pense que la Turquie a déconnecté quelque chose, l'a mis dans une situation où il s'est dit, je pense qu'à ce moment-là il s'est dit je vais passer à côté du titre, et que depuis il arrête pas de courir derrière en fait. Et
il se casse la gueule à chaque fois, quoi. Mais c'est ça, c'est une architecture. C'est quand tout va bien, c'est ce que tu disais, il cartonne, il fait des pôles, il est super bon. Et il s'est passé cette fêlure, ce truc. C'est le château de cartes, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est quand tout va bien, c'est beau, c'est génial. Il y a eu ce petit coup de vent et là, patatras.
Il met une pression extraordinaire sur l'équipe et par conséquent sur Vettel.
C'est là où c'est l'expérience qui parle.
Ça se voit dans sa manière de rouler aussi, hein, de toute façon.
Mais ce qui serait bien, c'est qu'il arrête d'y croire, en fait. Je pense aussi, un peu comme l'an dernier, faut être honnête, l'an dernier, les pilotes Red Bull, se sont battus pour le titre, mais ils ont fait que courir après le titre. Donc ils avaient, entre guillemets, ils avaient tout à gagner et rien à perdre. Donc ils étaient décomplexés. Là, Vettel, il sait que théoriquement, c'est lui le champion du monde, quoi. Il a la voiture, il est le plus performant en vitesse de pointe, etc. Il doit l'avoir. Sauf que c'est pas le même contexte l'an dernier, quoi. Là, il est plus en position de chasseur. Et je pense que si là maintenant il se dit j'ai plus rien à perdre, je joue mon va-tout, il va se vider l'esprit, il va redevenir le Vettel de l'an dernier. Et je pense qu'il pourrait faire mal et revenir très fort. Est-ce qu'il est prêt à faire cet effort de motivation de s'asseoir sur le titre? Je suis pas sûr. Et pour le moment, Red Bull en tout cas ne l'aide pas du tout en continuant de dire il est trop tôt. Oui, enfin face à Hamilton.
Alors à noter que les auditeurs ont mis Liu 10e, mais bon, c'est que les auditeurs, donc on s'en fout.
J'ai fait une course pourrie, je veux dire.
Alors là, à noter que Fab a mis Alguer Suari 10e aussi.
Tu lui as rendu son point.
Oui, je lui rends son point. Non, mais enfin, j'ai beaucoup hésité en fait à faire comme Bûcher, c'est-à-dire à mettre Button, quoi. Jusqu'à ce soir, j'ai hésité. Et puis finalement, non, je le laisse. Bon, il a fait une bonne course, malheureusement, il marque finalement pas de points, mais c'est oui. Quand il y a rien à mettre, hein, on met les gens qui sont rentrés dans le classement. Hein.
Ouais. Oui. C'est les joueurs du top 10.
C'est ça.
Le point de la petite équipe, je savais pas trop qui mettre en 10e, alors j'ai mis Kovalainen, qui est quand même parti 13e, alors c'est vrai grâce aux rétrogradations.
Il arrive de mieux en mieux à le dire. Il a placé
autant sa Lotus 15e.
Oui, non mais
et on dirait pas quoi, ça met 15e pour une Lotus.
C'est bien, hein.
C'est bien. Et devant Trulli en plus. Le classement maintenant est à la 10e place, c'est presque honteux. cette 10e place.
En fait, ça va me retomber sur le coin de la gueule, ça.
Bah, bien sûr, parce qu'en fait, il y a que Dino qui a voté pour ce pilote, mais lui, au lieu de le mettre 10e, comme nous, hein, parce que vous avez vu Fab, Bouchard, nous, on a
un système différent.
Lui, il l'a mis 9e. Et oui.
Et que ça reste rouge.
Ouais. Et sa suspension pétée.
Oh, oh, oh.
Hein. Monsieur Fernando Alonso, de la suite derrière Ferrari.
Il marque un point.
Non.
On peut pas mettre un veto, là.
Moi, je suis désolé, je trouve que, pour un mec, honnêtement, il a foiré sa qualif.
Attends, intervention. La LCMD et la CSSS interviennent sur le coup. La Ligue contre les monologues de Dino et le comité de soutien au silence de Shinji.
On voulait intervenir.
Interrompre ce monologue qu'on sent bien parti. Parce qu'on estimait qu'après plus de 40 heures tout seul à Paris, il fallait que ça cesse.
Nous ne cautionnerons pas l'heure qui suit.
Bande de salauds.
Vous savez ce qu'on va faire? Attendez.
Il va chronométrer, salaud.
Non. Tu as une minute.
Une minute? Allez, tu me donnes
pour nous parler d'Alonso. Attention. Top.
Alors oui, en fait, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que Fernando Alonso, il a raté sa qualif. On est bien d'accord. Bien aidé par Ferrari, qui a aussi contribué à rater sa course. Mais bon, ça, c'est pas grave. En course, bon, d'accord. Ok, pas de problème, il se fait foutre dehors par Barrichello. Mais il y est pour rien. Parce que c'est Barrichello qui se foire. Donc, il repart. Et déjà, il a le courage de repartir, parce que, rappelons quand même qu'il se fait percuter par Barrichello, qu'il aurait pu perdre la roue arrière, et donc ne jamais finir par repartir de la course. Mais il repart quand même, il a pas peur, il a sa suspension qui est peut-être cassée, mais il s'en fout, il a Spa, il va aller à 350 à l'heure au bout de la ligne droite, et il en a rien à foutre. Mais quand même, moi, j'ai apprécié la course qu'il a fait derrière, parce qu'il a pas lâché le bout. Quand Enzo disait l'an dernier qu'il aimait bien Alonso parce qu'il lâchait pas le bout, et ben il a pas lâché le bout, il a continué d'attaquer, il a continué d'essayer de prendre des places, etc. Même s'il a été aidé par la safety car, mais vous savez, moi, la safety car, je m'en fous. Je veux pas savoir, on parle pas de la safety car. Donc voilà, je crois que j'ai fini.
Il a réussi à le faire en 50 secondes.
On a rien compris, ça voulait rien dire, mais c'est pas grave. Bah alors maintenant, nous, on va prendre 10 minutes pour le démonter. Juste pour dire, sur Alonso, effectivement, bon, il se fait sortir par Barrichello, il y est pour rien, il arrive à repartir, mais la gestion de Ferrari derrière, mais comme ils ont super mal géré cette course.
Non mais cette année, ils ont laissé le cerveau des stratèges à Maranello.
Non, mais quand tu prends ce genre de décision, soit t'es le héros de la course, soit t'es le zéro, quoi. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ils avaient rien à perdre, il était dernier, donc ils lui ont mis des pneus intermédiaires, je crois, qui se sont flingués au bout d'un tour. Bon bah ils ont pris le risque, ils perdaient rien quoi, ils perdaient une place. Bah, sachant que si la pluie arrive, il y a une possibilité de safety car, bah ils ont tenté leur chance, ça a pas marché. Mais ça a le mérite d'être tenté quoi.
Oui, ouais, que vu comme ça. Mais il était avant-dernier quand il a repris le... Après s'être fait percuter par Barrichello.
Oui, je crois, 22e.
Mais il a eu énormément de chance Alonso, parce qu'en fait il est touché au moment où lui commence à tourner, il est touché juste à... pas de plein fouet, mais juste avec les...
Elles sont solides les Ferrari. Hein.
Et,
oui.
Ah mais...
Disons que l'avantage, c'est qu'il n'a pas été tapé vraiment par le museau, quoi. Il était tapé par le côté de l'aileron et par la roue. Avec les suspensions, la roue a sauté, donc ça a pas forcément ça a amorti l'impact. Et en plus, comme Alonso était en train d'entamer son virage, ça n'a fait qu'accentuer son virage. Donc il est parti en toupie et donc ça n'a pas tout pris frontalement. Je pense que si c'était arrivé en bout de ligne droite avant même qu'il tourne, je pense que sa roue arrière, elle partait.
Ouais, enfin... Il y a pas à dire, mais quand tu vois le choc, tu te dis suspension arrière de la Ferrari.
Je croyais que c'était la roue d'Alonso, moi, qui avait volé.
Mais bon, voilà, c'est quand même dans ce contexte-là, sans avoir la certitude, surtout à Spa, sans avoir la certitude que toute la voiture fonctionne bien et que t'es pas à l'abri d'une petite fissure qui pourrait casser au bout de quelques tours. Repartir et essayer d'attaquer comme il l'a fait. Voilà, moi je trouvais que ça méritait. J'ai hésité avec Button, mais je pouvais pas les mettre ex aequo, j'ai point.
À la 9e place, le pilote japonais Kamui Kobayashi. Je l'ai mis 8e, tu l'as mis 8e, Bûcheur l'a mis 8e et Fab l'a mis 9e.
Et les auditeurs?
Oui.
Les auditeurs?
On s'en fout des auditeurs.
Ils l'ont mis 7e. Chose à dire sur Kobayashi?
Moi j'ai beaucoup aimé au 3e tour quand il rentre au stand. Et que vous voyez les mecs qui enlèvent les roues et puis il se passe 10 secondes sans qu'il se passe absolument rien autour de la voiture. Alors t'avais cette voiture là sans roues et tout. Puis là ça m'a remémoré une pub qui passait souvent. C'est les meilleurs ordinateurs, les plus grosses technologies ne sont rien sans les hommes. Et là dans ma tête je me suis dit surtout ceux qui tiennent les roues. Quoi.
C'est vrai que malgré tout il fait une belle remontée en partant dernier et en perdant comme ça quasiment 15 secondes.
Ouais.
Donc on passe à la suite.
On va passer à la 8e place.
Ouais.
Ouais. Et c'est peut-être une des premières fois qu'il est devant son coéquipier. Faudrait vérifier. C'est Felipe Massa qui finit 8e.
Seulement?
Ah bah, c'est déjà bien, moi je l'ai mis 9e.
Toucher l'a mis 9e, je l'ai mis 9e. En effet, alors, Dino l'a mis 7e.
Oh, putain, j'étais gentil.
Comme les auditeurs. Et c'est vrai que Fab l'a mis 4e.
Je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il avait été particulièrement bon, mais je dois être le seul, c'est pas possible.
Et il nous a fait une Rosberg.
Exactement, je l'ai trouvé complètement.
Ben oui, non, mais voilà, en fait, j'avais envie de mettre la lumière sur ces pilotes qu'on ne voit pas assez. Et je sais pas, bah, Massa, enfin, je sais pas, je trouve qu'il a fait une bonne qualif,
La manque de bol, on a cassé les ampoules.
Non, mais vous êtes sévère avec Massa, je trouve. Vrai. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est une course sans éclat, mais enfin, on va dire ça aussi de Rosberg, on va dire ça de Sutil, c'est des courses sans éclat, mais voilà, quoi, il a le mérite quand même d'être là, quand d'autres n'ont pas été au rendez-vous, ont fait des erreurs. Moi, je le mets 4e, moi, je persiste.
Et c'est vrai que sur l'ensemble, lui n'a pas foiré sa qualif. En course, il fait le 4e meilleur temps, là où Alonso est très loin. Et il assure, il fait son rôle de numéro 2. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours le même problème, c'est qu'il y en a qui se montrent un peu plus, et lui, alors qu'il aurait dû montrer quelque chose, parce que justement Alonso était pas là, était largué ce week-end, il aurait dû montrer quelque chose, et finalement il montre quelque chose parce qu'il est solide en performance, mais c'est passé totalement inaperçu.
C'est normal qu'il fasse une bonne course, c'est quand même un ancien vainqueur du Grand Prix. À la 7e place, nous avons un pilote allemand.
Schumacher.
Rosberg.
Ah, c'est Rosberg.
Marc, tu me diras, vu comment j'ai mis Schumacher, effectivement.
Je crois que la mienne est à peu près pareil.
Parce que Dino, tu as mis Rosberg 10e. Fab, tu as mis Rosberg 8e. Les auditeurs l'ont mis 6e.
Mais ça, un déplacement sur Schumacher, ça rapporte des points.
Comme moi, je les ai mis 6e. Et Bouchard, tu l'as mis 5e. Donc c'est très disparate, hein, sur Rosberg. Il fait une belle remontée quand même, hein. Enfin, parmi tous ceux qui ont fait des remontées quand même ce week-end.
Oui, et il est le dernier par rapport à tous ceux qui ont fait une remontée. Il gagne 9 places quand les autres en ont gagné 12, 13, 14, quoi. Donc,
moi, j'ai suivi cette logique. Hein.
Honnêtement, pour moi, le seul finalement fait d'armes de Rosberg, c'est qu'il a fait un déplacement sur Schumacher. Malheureusement, il s'est fait dépasser comme une bleusaille par Petrov, ce qui, pour moi, a compensé dans l'autre sens, où je l'ai mis 10e. Mais j'accroche pas ce pilote. Hein.
Ouais, non, mais de toute façon, ça c'est le mec. C'est le mec. De toute façon, si tu le vois pas en classement après la course, tu te dis qu'il a pas couru, quoi.
C'est clair.
Il a créé l'expression course à la Rosberg, hein, donc.
le truc avec Rosberg, c'est que c'est un bon pilote, mais il a pas de coup d'éclat. Il fait jamais de coups d'éclat, il a pas ce grain qui fait que on va voir le pilote effectivement à la télé, qu'on va en parler, qu'il n'y a pas ce truc.
Bah finalement, son coup d'éclat, son seul coup d'éclat cette saison, c'est de battre Schumacher, qui est un coup d'éclat énorme.
Ouais.
Voilà, mais malheureusement,
ah oui, c'est énorme.
Qui est pas un vrai coup d'éclat, puisque c'est plus diffus. Alors qu'il fait des trucs par rapport à Schumacher, il est vraiment très bon.
Ouais, bah oui.
Il fait peut-être même sans doute sa meilleure saison.
Ah oui.
Je crois que maintenant il est bien en place dans l'écurie, mais c'est vrai qu'au début face à Schumacher, il faut s'imposer. Il a réussi à le faire.
C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'il a vraiment eu à s'imposer au sein de l'écurie? Est-ce que Schumacher, il est pas revenu humblement en se disant j'ai pas besoin de tout pour moi pour absolument tout gagner, pour absolument être le champion, tout gagner comme il était chez Ferrari, et se disant voilà quoi.
Parle de Soumis,
oui.
Là.
Oui.
Ouais, mais quand même.
Je suis un ex-fan des 20s et on parle de Soumis, quoi.
Non, mais c'est peut-être Soumis, d'accord, mais il revenait après 3 ans d'absence, et je me dis que peut-être que il n'est pas revenu le torse bombé en se disant je sais pas, et peut-être qu'aussi Ross Brown il a dit attends, Michael, tu reviens, là tu as le jeune, lui il est au courant, il sait comment ça se passe, c'est pas mauvais, là il doit avoir sa chance aussi, on sait pas, on n'y est pas dedans.
Puis c'est beaucoup les médias qui ont plus
c'est les médias qui ont monté le truc en épingle, bah ça faisait vendre.
Oui. Mais honnêtement, je pense que Schumacher, il est revenu avec dans sa tête l'idée de réussir son retour, qu'il allait regagner, etc. Mais qu'il a eu ensuite l'intelligence finalement de ne pas faire de trop de caprices. Il en a fait au départ en disant voilà, la voiture lui correspondait pas. On a mis les petits plats dans les grands pour lui adapter sa voiture à Barcelone et tout. Mais je pense qu'après il a su aussi accepter le fait qu'il était dominé par son coéquipier et se remettre à travailler dans son coin pour progresser, etc. Tout ce que j'espère de son retour, c'est qu'on le verra plus humain, et c'est ce qui m'énerve justement quand on voit des incidents comme en Hongrie.
En même temps, ce qu'il a fait, c'est très humain, hein. on se doute qu'il y a de la pression.
Ah oui, c'est parfaitement humain. Mais disons que ça ne sert pas son image, parce que ça renvoie au Schumacher des années 2000,
ouais,
des années 90.
Moi aussi, c'est ça que j'ai apprécié dans son retour. Et tu disais qu'on, il disait que la voiture n'était pas adaptée, tout ça. J'ai pas le souvenir que lui l'ait dit. Que Ross Brawn l'ait dit, oui. Mais que Schumacher lui-même ait dit que la voiture n'était pas adaptée, j'ai pas le souvenir. Il disait qu'il fallait qu'il trouve les réglages adaptés à son pilotage.
Voilà,
il parlait de réglages. Il parlait pas de la voiture.
Il l'a dit de façon, il l'a dit de façon déguisée. Il l'a dit. Il
a confirmé
Ross Brawn, mais il l'a dit de façon déguisée. Par contre, là, il commence à le dire plus clairement.
Clair qu'à un moment donné, bon, on sait que chaque pilote a sa façon de piloter, que si la voiture n'est pas adaptée, il va pas en tirer meilleur.
Faut se rappeler aussi l'histoire de Schumacher. Quand il arrive chez Ferrari, sa première saison, dans la presse, il faisait un constat honnête de l'état de Ferrari en disant qu'il y avait du boulot.
Et à l'époque, ça n'était pas forcément vu comme un bon choix d'aller chez Ferrari.
Ouais. Oui. Et là, il va chez Mercedes et il a le même fonctionnement. Et je pense qu'il va avoir une influence sur je pense qu'il est tourné sur la W01. C'est l'année prochaine, il faudra observer, parce que je pense que si la W01 marche bien, elle marchera sans doute bien pour Schumacher plus que pour Rosberg.
W02 l'année prochaine.
Oui, la W02.
Oui, c'est sûr. Oui, là, c'est à un moment, je me souviens, Button l'avait dit, il disait, je m'excuse auprès de Michael parce que la voiture a été à la base construite pour mon pilotage et Michael en a complètement différent, donc elle lui va pas. C'est pour ça que il expliquait un peu les mauvaises performances de Schumacher. Ouais. Donc effectivement, c'est surtout l'année prochaine qu'on verra ce que donne Schumacher réellement après sa petite retraite.
Tout à fait. On passe à la sixième place. Ah, c'est facile parce que c'est un pilote russe.
Ah, lequel?
Ouais. C'est Petrov.
Ah, c'est Petrov.
Oh, tu es fort,
genre. Wow.
J'ai rien gagné là.
T'as gagné 15 points.
Ouais,
oui. Sixième devant Fab.
Bouchard qui l'a mis septième. Les auditeurs ont été durs avec Petrov, vraiment. Ils l'ont mis neuvième.
Oh.
Sinon, pour le reste, on l'a mis cinquième. Alors voilà, Rosberg fait une belle remontée, mais Petrov,
il quand même. De la 23e place, Petrov.
14e place.
Oui. Voilà. Certes, il fait une boulette en qualif, mais force est de constater que il fait une erreur en qualif, et c'est ce qu'a souligné Boullier. Mais en course, il se récupère. Ouais. Il fait pas d'erreur. Il s'est quand même offert magnifiquement le scalp de Rosberg, je crois. Il a tenu la dragée.
Petrov finit 9e dans les points.
Aux deux Mercedes. Bon, après, c'est plus dur sur la fin de course, mais
D'ailleurs, dans l'interview de Boullier, Boullier explique ou je sais plus s'il dit clairement ou s'il le sous-entendait que le fait de s'être merdé sur la qualif avait fait qu'il avait ça avait motivé que ça l'avait motivé et puis que du coup il a fait super grave de pas se faire piéger pendant la course.
Oui.
Donc est-ce qu'il aurait eu le même résultat s'il était parti 12 ou 13e par exemple? C'est pas forcément dit.
Des fois, partir du fond de grille, c'est aussi une opportunité pour des jeunes pilotes de montrer que ils sont capables de faire des choses.
Ça a l'air d'être quand même un pilote qui est très intéressant dans sa manière de gérer la pression. Quoi.
Ouais.
On parle d'un Vettel qui a un peu de mal avec ça, mais Petrov, on lui dit il y a quelque temps, il lui dit t'as jusqu'à la Hongrie pour faire tes preuves, il les fait. Là, bon, il sait très bien qu'il a le poids des regrets de l'écurie sur ses épaules et il réussit une très bonne course. Enfin, moi, Je suis optimiste pour la suite, quoi. Si c'est toujours lui l'année prochaine,
oh oui.
J'ai bien envie de voir.
Et remonter qu'il fait sans faire de choix spécifique de pneus en plus, hein.
Ouais.
Moi aussi, j'aimerais bien qu'il reste sur Renault pour voir ce qu'il va donner. Lui, son carburant, c'est la pression. Il faut qu'il soit
sous pression
pour qu'il se sorte les doigts du cul et voilà, quoi.
On passe à la cinquième place.
Allez.
Encore un pilote allemand.
Sutil.
Eh ben, il est fort, hein. Sutil. Que j'ai mis septième. Que Bouchard a mis sixième, que Fab a aussi mis septième, et alors les auditeurs et Dino, carrément quatrième.
Ah, je suis pas seul!
Mais c'est incroyable. Alors ça, c'est incroyable quand même. Moi, ça me dépasse. Permettez-moi de vous dire que ça me dépasse. Parce que Sutil, il part huitième, il finit cinquième. On est d'accord?
Oui.
Et quand il y a des mecs comme Petrov et Schumacher, qui gagnent tous les deux 14 places sur un Grand Prix, je sais pas, moi, là, vous me sidérez. Permettez-moi de vous le dire.
Eh ben, je t'avouerai que personnellement, je n'aurais sans doute pas mis Sutil dans le classement si je n'avais pas revu la course d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a, j'avais pas pensé à Sutil, alors faut quand même aussi dire que j'ai pas vraiment regardé avec beaucoup d'attention au Grand Prix de Belgique. Pour ça que j'ai dû le re-regarder aujourd'hui. Parce que bon, j'avais mes fondants au chocolat qui étaient en train de cuire, donc voilà.
D'accord. Les fondants la priorité même sur la F1.
Ah ouais, non, quand même. Et on parle de fondants au chocolat, les mecs, avec
c'est très bon.
Respect.
Et non, honnêtement, moi, j'étais, je me suis dit, j'étais étonné de me dire, merde, ce mec, je l'ai pas vu, alors que, il a dépassé, Michael Schumacher au sommet de l'eau rouge avec moteur égal. Il a fait une course solide, oui, discrète, mais il s'est quand même offert, quelques beaux moments. Et, moi, je trouvais que ça méritait d'être souligné. Surtout, par exemple, par rapport à Massa, quoi. J'avais pas envie de mettre Massa parce que Massa finalement il a rien montré pendant la. Alors que là, tout en étant d'apparence transparent, eh ben Sutil il est quand même allé au charbon. Et c'est là où je me suis rendu compte que des fois par le passé j'ai jugé des pilotes, notamment Rosberg, en disant que je l'avais pas vu, etc. Mais peut-être que j'aurais dû revoir la, de prendre le temps pour bien analyser et de me rendre compte que ben il y a des pilotes qui font des belles performances même si on ne les voit pas.
Non non mais bon après il fait une bonne course ça, moi je suis tout à fait d'accord.
Oui, oui. Disons qu'il n'y a pas que le critère nombre de places gagnées.
Ah non, par rapport non, à la... non.
Bien sûr mais... bien sûr enfin bien sûr.
Que moi Sutil c'est ce qui m'a marqué, c'est que on le voit dans le quali, on voit la qualif, on voit la course et puis après si on, il faut réaliser qu'il n'a qu'une Force India mine de rien.
Ouais. C'est vrai.
Il résiste, voire même être devant des monoplaces bien plus rapides que lui, avec des pilotes bien plus expérimentés que lui. Donc voilà, c'est là où il montre toute sa force, Sutil. Il a une constance entre la qualification et la course qui fait que pour moi c'est un pilote très solide.
Et on aurait tort justement de prendre justement comme référence Spa 2009, puisque la Force India n'était bonne que à Spa en 2009.
Oui.
Alors que cette année elle est plus homogène, donc elle est moins adaptée à Spa, puisque plus homogène sur le reste de la saison. Donc oui. Voilà, la performance est tout aussi belle que l'an dernier.
Et ça montre un les qualités de Sutil et deux la montée progressive en puissance de Force India qui fait plaisir à voir.
Oui, ça c'est sûr.
Oui, mais qui ne risque malheureusement peut-être pas de se confirmer par le futur parce que l'écurie a une belle forme apparente mais capitalise beaucoup sur l'année dernière et sur l'association avec les ingénieurs qui depuis sont partis chez Lotus.
Oui, ce que j'allais dire.
Nos aérolabs. Et il y a quand même de gros doutes sur Force India l'année prochaine et Sutil se pose la question. Il a beau dire que pour lui Renault et Force India c'est à peu près la même chose. Lui qui est à l'intérieur de Force India, qui sait très bien que Force India va en Italie avec un petit peu la peur aux miches de se faire confisquer, enfin saisir certains de ses biens parce qu'ils doivent de l'argent. S'il regarde ça, il doit faire un choix de carrière à ce moment-là, parce qu'il n'est pas garanti l'année prochaine de retrouver une Force India qui soit à la hauteur de celle de cette saison.
C'est vrai que Sutil dans une Renault, c'est intéressant, ça serait intéressant à voir.
Ah oui. Moi, je le voulais chez McLaren.
À la limite, je le mettrais pas chez McLaren. Je le mettrais à la place de Schumacher chez Mercedes.
Oui. Ah bah oui, et puis en plus, il y a le côté allemand, c'est clair.
Exactement. Mm. Ça pourrait être intéressant. Face à Rosberg, je serais intéressant de voir ce que ça donne.
Ouais.
Mais on verrait jamais Mercedes.
C'est clair.
Avec ces deux pilotes invisibles, on les verrait jamais, quoi.
À la quatrième place, c'est encore un allemand, et ce n'est pas Timo Glock.
Ni Vettel.
C'est Michael, Michel, Michael, vous l'appelez comment vous voulez. Alors, je l'ai mis quatrième, comme Bouchard. Les auditeurs l'ont mis cinquième et Fab et Dino l'ont mis sixième. Il fait quand même une remontée de fou. Alors autant on lui a gueulé dessus il y a un mois, mais là quand même il fait un truc. Voilà, c'est ces moments-là où on a l'impression de retrouver le Schumi d'avant,
ouais.
The Regen Master, même si ça a été de la plus bizarre.
Regen, pas Regen.
Alors en allemand c'est Regen.
Ah c'est Regen.
Wow, comment il est cassé. Et j'ai pas osé intervenir.
Ah non, je croyais.
Oui, bah oui, Regen Master, oui en anglais.
Mais donc c'est pas Master, c'est Meister.
Oh là là. Ouais,
c'est mes problèmes d'accent là.
Le mec pour essayer de pas perdre la face.
Exactement.
Je crois que tu n'as pas mis l'accent tonique au bon endroit, Shinji.
C'est sûr qu'on préfère le voir comme ce dimanche plutôt que comme en Hongrie.
Mais tu vois, moi c'est l'inverse de Sutil finalement. Il m'a moins impressionné quand j'ai revu la course que quand je l'ai vu la première fois.
Faut noter déjà qu'au premier tour, donc il est parti 21ème, il était déjà 14ème.
Bah quand tu passes les Lotus et compagnie.
Puis les mecs ils se poussent, hein.
Oh merde, putain, il y a Michael.
Non, ils veulent pas être victimes d'un strike, hein.
C'est bizarre, quand Michael il est là, même si les murs sont loin, il me semble très proche.
Bon, je dois rajouter sur Schumi.
Par 21ème, il arrive 7ème, en faisant une course propre, tout est dit.
Il y a aussi l'intelligence stratégique, hein, dès la Hongrie presque, hein, ils avaient décidé de rouler que pour la course.
Oui, alors par contre, alors là c'est pas contre Schumacher, c'est contre Brown. Heureusement qu'il a plu.
Oui.
Il n'avait plus de pneus.
Slick!
Ce qui est bizarre. Pour la plupart des équipes, on utilisait beaucoup de pneus pluie, et donc c'était plutôt au niveau des pneus pluie qu'on pensait qu'il y aurait des problèmes, et eux non, c'est les pneus slick.
Et il faut préciser sur les pneus, c'est que il y a quand même un truc bizarre, c'est que on est sur un Grand Prix où on nous prévoit de la pluie et je crois qu'il y a il y a 11 jeux de pneus slick et je crois qu'il y a 7 pneus intermédiaires et pluie.
Il y a 4 jeux en intermédiaire et 3 en pluie.
Voilà. Donc on a un rapport de 11 à 7. Alors c'est déjà n'importe quoi. Et là en plus, Mercedes, il se retrouve en rade de pneus slick alors que le vendredi s'est déroulé quasiment sous la flotte. Se retrouver en panne de pneus slick sur la qualif et la course, c'est quand même énorme.
Ça me surprend de Brown, ça.
Peut-être trop de stratégie et au final trop de calcul et ils ont peut-être pris trop de liberté avec les slick en se disant la course va être sous la pluie et bah...
Manque de bol.
Non, c'était bizarre.
Et ils s'en servent pour que Schumacher ait des punching balls. Ouais. Il tape dans les pneus. Pas de bagnole.
Ça lui évite de taper dans Barrichello.
Ouais. On passe au podium. Je suis sûr que vous avez tous une idée du podium. Oui.
Hamilton, oui. Weber, Kubica.
Non, Hamilton, Kubica, Weber.
Oh merde. Ah.
Attends, eh bien, en troisième, c'est Weber.
Oh merde. Ouais. Je l'ai mis troisième ou deuxième, je sais plus.
Non, tu l'as mis deuxième et sinon tout le monde l'a mis troisième. Alors déjà, mais quel départ de merde.
Et c'est typiquement la raison pour laquelle je l'ai mis troisième et pas second.
Exactement, pareil.
Mais là, je commence à me demander s'il n'y a pas un truc chez Red Bull. Ouais.
Ah, mais moi, je me pose sérieusement la question. Hein.
C'est waouh. Même sur les départs des Red Bull. Quand c'est pas Weber, c'est Vettel. Quand c'est pas Vettel, c'est Weber.
Oh, la tortue.
Ce qui d'ailleurs ne rend le départ de Kubica que plus beau.
Exactement.
Ah oui. Oui. Ouais. Sinon, après, c'est l'exemple de la course solide, hein, parce qu'il reste en embuscade. Ouais, c'est finalement dommage. Hein. C'est dommage, parce que vraiment, s'il n'avait pas raté ce départ... peut-être qu'il aurait pu gagner, hein. Enfin, même, probablement.
Je pense qu'avec il aurait eu Hamilton au fait pendant
Hamilton,
un moment.
Ouais. Ouais.
Et à un moment donné, il aurait fait la pression d'Hamilton, je pense qu'il aurait peut-être fait une faute et Hamilton l'aurait doublé.
Je vais te dire honnêtement, sur le week-end, ça va faire plaisir à Fab. Ah. j'ai une vision.
Oh là.
J'ai vu Hamilton champion. C'est entre les trois Gugus qui se gaufrent, entre Button qui fait un bon départ, mais on le sait quand même face à Hamilton en pleine forme a quand même moins de chances de pouvoir le battre. Entre Vettel qui a fait suffisamment de conneries pour ne plus en faire d'ici la fin de saison et Alonso qui passe totalement au travers de sa course, le seul qui lui résiste c'est Weber et Weber quand tu vois comment il a foiré son départ, tu dis voilà Hamilton il va te chercher la deuxième place la dernière seconde avec des pneus slick alors qu'il commence à pleuvoir, il cherche la deuxième place en course, il fait un bon départ, il assure la course, en plus il a le soutien de son coéquipier qui a indirectement ralenti le reste derrière. Moi honnêtement j'ai vu Hamilton champion et ça m'a fait chier.
alors moi je l'ai pas vu champion, mais c'est surtout que j'ai réalisé j'avais fait le pronostic pas longtemps avant pour la fin de saison et je pensais à Vettel, Weber, Alonso et j'avais complètement exclu les McLaren pour le titre de champion et c'est là où j'ai réalisé mais c'est Hamilton, c'est clair que quand tu vois effectivement Vettel, Alonso, Weber qui a eu merdé son départ, j'ai fait Hamilton mais il est sacrément bien placé pour la course au titre.
Ah oui. Très régulier et très solide.
Exactement.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Ah oui.
Enfin, à mon avis, ça va être une belle bataille. Enfin, bon, si ça reste comme en l'état, c'est quand même une belle lutte entre Weber et Hamilton, parce que bon, Weber t'enlève son départ, forcément. Voilà, son départ est pourri, mais tu prends sa course, à Weber, elle est hyper sérieuse, hyper solide face à Hamilton, qui lui aussi fait une course hyper sérieuse, hyper solide. Bon, il fait une petite faute à un moment, ça aurait pu coûter cher, mais sans conséquence. Mais là, quand même, t'as deux pilotes qui sont, enfin. Extrêmement solide, c'est les deux seuls du championnat à mon sens, ça peut faire un beau duel quand même.
Ah, cette solidité hein, qu'on parlait en comparaison avec elle, hein, c'est clair.
Mais je crois que c'est pour ça que j'ai mis en fait Weber deuxième. C'est justement parce qu'il a fait une course de futur champion. Il a calculé, il s'est dit voilà, je suis pas le plus fort sur ce Grand Prix. Il avait dit avant que Spa et Monza ils allaient souffrir. et ça a été le cas, ils ont souffert. Il s'est dit voilà, une troisième place c'est pas mal, et puis il a été opportuniste, il a profité de la boulette de Robert en au stand, et ben il s'est retrouvé deuxième, il a pas forcément surattaqué, il a été prudent, ce qui n'a pas été le cas de Vettel. C'est sa force.
Voilà, exactement.
Mais c'est quand même pas le même morceau Hamilton battre un rival sur lequel t'as pas de contrôle et battre son coéquipier en lui mettant la pression psychologique, c'est pas la même chose quoi.
Ah oui.
Il peut finalement exercer de la pression psychologique sur Vettel parce qu'il est dans la même équipe, ils passent du temps ensemble, ça va être plus difficile à faire ça sur Hamilton.
Ouais,
ça c'est clair. Mais je réalise quand même il y a un contraste saisissant, c'est que chez Red Bull les rôles se sont inversés. C'était en début de saison, c'était Vettel à la valeur sûre, on va dire calme, posé, stratégique, qui exploitait très bien sa voiture. Et c'était Weber le fou qui tentait un peu n'importe quoi. Et là, ça s'est complètement inversé.
La Turquie.
Ouais.
C'est un travail de sape, mais énorme, quoi. C'est ce que fait Weber, c'est il l'aura mérité son titre parce que sportivement, s'il est champion, sportivement, il est au top. Il exploite très bien la voiture, il est lui très en forme, et en plus, il a ajouté cette dimension psychologique qui moi j'adore les pilotes qui ont cette dimension psychologique, il l'ajoute, il en joue avec, et finalement il contredit les pronostics.
Ah puis ça va être chouette hein, le management chez Red Bull en fin de saison.
Oh. Marc, non, ça va être plus simple en fin de saison que à la bord du dernier tiers de la saison, ça c'est sûr.
Ouais, parce que bon, c'est pas le fils chéri, ouais. C'est bien là, le problème.
Oui. Oui, mais moi je me demande honnêtement si les accidents en répétition de Vettel, parce qu'on parle beaucoup de d'Helmut Marko, d'Adrian Newey, quoique je pense que Newey reste relativement neutre, Christian Horner qui a du mal à œuvrer avec tout ça. Faut pas oublier derrière c'est qu'il y a dans une équipe il y a 50, il y a 80 mecs. Et je pense que les mecs vont commencer à se dire bon bah Vettel ça fait quand même 2 ans qu'on le soutient, c'est notre chouchou etc. Mais vu comment il massacre ses opportunités,
et puis
en face on a Weber qui lui fait son boulot, qui casse pas les voitures, qui voilà, et peut-être que les mécanos vont commencer à se retourner plutôt en faveur de Weber, et ça peut jouer.
Non, puis il y a un facteur qu'on oublie souvent, mais faut pas oublier que Weber était dans l'équipe à l'époque où c'était Jaguar.
Oui.
Et il y a plein de gens qui sont chez Red Bull qui étaient à l'époque de Jaguar. Hein. Faut pas l'oublier par rapport à sa place dans l'équipe. Certes, c'est pas le chouchou. Mais en réalité, il y a une bonne partie de l'équipe, il les connaît depuis 5-6 ans, voire plus. Ouais.
Les incidents de Vettel vont certainement réactiver justement le souvenir dans l'équipe que avant que Vettel arrive, bah il y avait déjà Weber.
Ouais, mais sa plus grosse victoire en fait, Weber, finalement, c'est d'être parvenu à faire rappeler aux autres qu'il était là, quoi, finalement.
Oui. Et puis pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue volonté, c'est peut-être la chance de sa vie. Hein.
Ouais.
Donc il laissera rien passer, absolument rien.
Et il y a un avantage aussi qu'on a tendance à oublier, mais qui, à mon avis, doit quand même pas mal jouer, c'est qu'il a la faveur des médias par rapport à Vettel.
Oui. Bah, au fur et à mesure de voir Vettel faire des bourdes et gâcher, c'est clair que ça finit même par énerver.
Bah, c'est même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, Vettel, c'est limite le vilain canard, quoi. Et malheureusement, c'est vrai qu'il fait pas d'effort aussi parce que il donne une impression d'être arrogant, ce qu'il n'est finalement pas. Ça le met à dos. Et puis en plus, bah c'est vrai que la Turquie a quand même contribué à cristalliser contre lui pas mal de gens en Turquie. Ça n'arrange pas les choses.
Ça c'est clair. Et on le voit, mais là c'est apparemment c'est une vague de déchaînement contre lui suite au Grand Prix. Alors que c'est vraiment le chouchou des médias justement en début de saison.
Oui.
C'était le pilote simple qui se prenait pas la tête, qui savait qu'il y avait de la pression mais il arrivait à la gérer. Et là, ça part tout de travers.
C'est là aussi les médias sont d'une certaine manière un peu injustes. C'est que finalement, ils détruisent une idole qu'ils ont eux-mêmes contribué à construire.
Oui.
Et heureusement qu'il y a des anciens pilotes, Gerhard Berger, Michael Schumacher, qui viennent et qui finalement disent, bah oui, il fait des conneries, mais il est quand même en lice pour être le plus jeune champion du monde. On a Lewis Hamilton qui dit, bah oui, bah moi ma première saison j'étais pareil que lui, et ça m'a pas empêché la deuxième saison d'être titré, quoi, d'être champion. Donc voilà, il fait des erreurs, il est jeune, donc accorde lui le bénéfice du doute. Et c'est là où les médias sont vaches, c'est quand même eux qui en ont fait Baby Shumi, qui en ont fait la nouvelle vedette montante. Red Bull a beaucoup joué là-dessus, et maintenant ils retournent un petit peu leur veste parce que ça les arrange, quoi.
Les médias retournent leur veste.
Oui, les médias, pas Red Bull. Hein. Red Bull.
Red Bull, ils ont trop misé sur Vettel pour
la veste
pour le lâcher comme ça.
Oui, sur les épaules.
On passe à la deuxième place. Si Weber est troisième.
Kubica second.
Ouais. Et nous.
Bah, tout le monde a mis second, sauf moi, c'est ça?
Sauf toi, voilà, exactement.
Ça veut dire que, Michael Schumacher, Hamilton. Je commence déjà à confondre. Hamilton est premier chez tout le monde, voilà. J'ai l'habitude des
émissions, c'est
un peu tordu.
Parlons de Kubica. Donc déjà, il y a ce super beau départ, hein, tu l'as fait remarquer.
Ouais.
Puis, quand même, quel plaisir, hein, de voir Renault,
Quand
ils nous disent, on va faire un podium, on sait aujourd'hui que Renault, oui, là, Renault est capable de faire un podium.
Mais ils sont pas capables de deviner que la ligne des stands va être un petit peu humide. Alors
non,
qu'ils sont
dedans. Non, c'est même
pas ça. Une bonne explication.
C'est même pas ça. J'ai lu une explication aujourd'hui du merdage de Kubica. C'est dans la ligne des stands, il réglait un truc sur son volant ou je sais pas quoi. Il a raté le point de freinage pour s'arrêter au stand. C'est lui qui s'est merdé.
On peut pas faire ça à un autre moment.
C'est ça. Il s'est merdé. Je croyais que c'était à cause du mouillé. Non. C'est pas à cause de la pluie. C'est qu'il s'est simplement merdé. Tout seul comme un grand. Mais il l'a avoué. Il l'a reconnu. Il a dit, ouais, j'ai merdé.
Les mécaniciens de Renault confirment.
Non, c'est de la faute. Non, c'est nous, Robert. Non, c'est moi. Non, c'est nous, Robert. Mais non, c'est moi. Mais non, c'est nous. Et tu vas pas faire ton Alonso, hein.
Bon départ et puis course excellente quand même. Enfin,
ah oui.
Ça paraît tellement simple à souligner, mais c'est quand même une course incroyable, quoi. Enfin.
Et quelle efficacité de Renault.
Ah oui.
Ouais.
C'est épatant, hein, quand même.
Encore une fois, je vais reciter les commentaires de la BBC. Je m'excuse. Hein. Ils étaient limite en admiration devant Renault en disant Renault, c'est la seule équipe cette saison quand ils amènent une évolution, elle marche.
Ouais.
Pas besoin de la régler pendant 3 Grands Prix, il l'amène, elle marche. Le F-Duct, tout le monde a dit, il perd du temps à ne pas le faire, etc. Et ben, n'empêche, le F-Duct, quand il arrive, il marche très bien. Pareil pour Stu Flashback, quand Stu Flashback est arrivé, ils l'ont installé, ça marchait. C'est ça aussi d'être dirigé par un technicien.
Ouais
et pas un ingénieur.
Ouais, pas par un jet-setter, quoi.
Oui, exactement. Mais c'est Curie Renault. Oui, vas-y, Shinji.
Non, juste dire que ils sont encore au classement 5e, mais c'est clair que sur la piste, c'est la 4e équipe.
Même clairement. À Spa, c'était la 3e.
Voire même, oui, la 3e. Tu disais?
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'était écurie Renault. J'étais, pour être gentil avec moi-même, très sceptique sur l'arrivée de Génie Capital et le changement de management. Et depuis le début, ce qui m'était jamais arrivé, Renault, je n'avais jamais vibré pour cette écurie. Et tandis que là, depuis le début de l'année, il me donne envie de les soutenir.
Steph Corr, sors de ce corps.
Non, mais quand il y a des écuries comme ça, qui me surprennent qui vraiment me surprennent dans le bon sens du terme, avec, en prenant Kubica, en prenant Petrov, où ils m'ont fait mentir sur lui, parce que c'est finalement un bon pilote, et où ils ont su certainement détecter le talent là où peut-être les autres ne l'avaient pas vu. Honnêtement, ça me dit, ouais, j'ai vraiment envie qu'à l'avenir, il fasse de bons résultats et qu'il redevienne champion du monde. Ça, c'est clair que si ça continue comme ça, oui.
On va passer à celui qui est arrivé premier et pour notre émission spéciale 2 ans, c'est même pas un petit chelem, c'est un grand chelem pour Lewis Hamilton, que donc tout le monde a mis premier.
Évidemment.
Pour une fois, certains, ça a dû leur faire mal.
Pour une fois, vous allez voir, je vais être très silencieux. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, tout ce que je ne pouvais supporter de dire. Je n'en dirai pas forcément plus.
Alors justement, c'est là où on attendait ton monologue. On t'autorisait à le faire.
Oui.
Non, moi j'ai dit, voilà, moi j'ai vu le futur champion.
Non, mais bon, enfin, qu'est-ce que tu veux dire, quoi, quand tu vois sa course?
Bah non,
tu te dis,
voilà,
c'est incroyable, quoi. Enfin.
D'ailleurs, il a mené du premier ou dernier tour.
Voilà, non mais enfin, et puis bon, au final, il a pas fait de faute, à part donc la petite, la rivage.
Ouais, mais c'est pas vraiment une faute, ça. C'est.
Voilà, c'est, enfin, je veux dire, avec des courses aussi propres que ça, c'est normal qu'il fasse l'unanimité.
Ah oui.
Enfin, c'est, voilà, le, y a rien, moi, pour moi, il n'y a rien à dire, quoi. C'est parfait.
Ouais, moi, c'est pareil, il n'y a rien à dire.
En plus, il est beau, il est grand, il est fort.
Il est pas grand, c'est pas vrai, c'est un nain.
Non. Oh ouais, pour oh, les pilotes de Formule 1, il est super.
Ah, il y a une photo de lui, Marc Weber. T'as l'impression que...
Oui, bah, Marc Weber,
c'est... Marc Weber, c'est un géant vert.
Marc Schum, t'as passé une bonne chance.
T'as qu'à le foutre entre Marc Weber et Massa, tu verras. D'un côté, t'auras le géant vert et l'autre, t'auras Passepartout. Ah oui, parce que Massa, c'est le plus petit hein, des pilotes.
Oui,
hein.
Ça, je m'en doute.
1m59.
Oui, il a encore rapetissé hein, depuis l'Allemagne.
Bah déjà l'an dernier, ça lui a un petit peu tassé les vertèbres alors.
Ouais. Non, bah voilà, rien d'autre à dire parce que course parfaite. Tout simple. What else?
Un petit café, ça serait pas mal ça. Ouais.
Me tente pas.
Sur ce, on va passer au classement dans ce cas.
Oui.
Et quand je vois le classement... J'aimerais que la FIA prenne notre classement. Ah. Oui, non, mais attendez. Hey.
Ça sent genre, il y a 4 pilotes en 3 points ou un truc dans le genre.
Eh bien, sache que Hamilton mène notre classement avec 165 points.
Il en a chié pour prendre la tête. Hein.
Ah, ça, c'est clair.
Il a eu du mal.
Devant Vettel, qui a 164 points. Et Marc Weber qui a 162 points.
Ils sont trois en 3 points.
Et Fernando Alonso qui a 157 points.
Oh la vache.
Ça, c'est par contre, Button, il a 121 hein, par contre. Hein.
Ouais.
Et alors par contre, du côté des classements des équipes, c'est un petit peu plus clairsemé. Red Bull est toujours devant, 326 points. Devant McLaren, 286. Ferrari est toujours là, troisième avec 230 points. Alors par contre, Mercedes est toujours quatrième avec 146 points, mais Renault est à 142.
Ouh.
On sait pas s'ils rattraperont dans l'autre classement, mais dans l'autre, c'est bien parti.
Et justement, j'ai dit l'autre classement.
Dans l'autre classement, Lewis Hamilton est premier, 182 points, devant Marc Weber, 179. Les deux vainqueurs du Grand Prix, hein, au point de vue du classement, ça c'est clair. Et juste derrière, justement, les trois perdants, avec Vettel, 151 points. Notez qu'il a 28 points de retard sur son coéquipier. Donc, après Monza, Weber sera toujours devant.
Eh oui.
Ah. Oui, après, la question, c'est à Monza, qui va marquer plus de points que l'autre?
Ouais. Qui va louper son départ?
Les deux.
Là, faut surtout pas le louper.
Alors, des choix, ça va être compliqué. Jenson Button est quatrième, 147 points. Alors là, par contre, c'est pas vraiment la même situation que chez Red Bull, donc on peut penser quand même que pour Jenson, c'est peut-être un peu cuit quand même. Hein.
Pas forcément.
Même si, alors mathématiquement, mais non, tout est encore possible.
Bah, disons que contrairement à Red Bull, où la situation a quand même été confuse, chez McLaren, j'oublie le nom de temps en temps comme ça.
Cherches à les oublier, c'est pas pareil.
C'est un peu plus clair quand même. La situation est quand même un petit peu
Button,
plus claire.
Button, s'il regagne, on sait jamais, hein, ça peut vite se retourner cette année. C'est vrai que s'il continue, si la distance continue à s'accentuer, les choix sont sans doute beaucoup plus rapidement faits chez McLaren. À noter que, je crois que c'était au Canada, il avait quoi, 6-7 points de retard sur Hamilton seulement. Ah, le temps d'un été, ça a grandi.
Mais c'est ça le truc, c'est que même en ayant eu deux victoires, de plus que lui, il n'a pas forcément creusé l'écart sur lui parce qu'Hamilton, depuis le début de saison, est très régulier.
Sur le coup, c'est quand même Hamilton, il peut remercier Vettel. Hein.
Ah oui.
Parce que l'écart se creuse parce que Hamilton il gagne et que Button il marque aucun point.
Oui.
Donc, à la cinquième place, Fernando Alonso est à 141 points. Et alors, à noter que mathématiquement, je dis bien mathématiquement, pourquoi tu pleures?
Oh, il est loin.
Non, rien.
Parce qu'il est trop, il est trop.
Je suis ému de voir Alonso avec tellement de
points. Par rapport à ça,
c'est sûr. Oui, c'est vrai.
C'est quand même deux fois ce qu'a eu Raikkonen l'an dernier. Je vais pas faire mon chieur, mais il a quand même battu Raikkonen champion avec 110 points. Il a quand même battu Raikkonen, quoi.
Oui, non, mais Raikkonen champion l'année dernière.
Non, mais en 2008, il avait en 2008, 2007, il avait 110 points.
Ah, d'accord.
Ah, ben, on voit, il en a 141. Voilà, il a 31 points de plus. Dans le cul, les Raikkonen.
De ton R, ce message était pour toi.
Je l'emmerde.
Moi aussi, je t'aime, Shinji.
Notez que mathématiquement, ils ne sont plus que 10, théoriquement, à pouvoir être encore champion du monde.
Oh non, faut arrêter ça. Ils sont plus que 10. Le leader, il a 182 points, il reste 150 points à distribuer.
Il y a toujours de l'espoir pour Michael Schumacher. À faut toujours avoir de l'espoir.
Attends, eh, c'est pas sûr parce que s'il n'y a pas la Corée, il n'y a que 125 points à distribuer.
Ah oui. Ah bah oui, bah pour l'instant on part du principe que la
Corée... Il aurait dans l'os et il est possiblement hors course sur...
Oui.
Pour deux ou trois points.
Ça dépend des Coréens. De toute façon, après l'Italie, il sera sans doute hors course.
Oui. Oui, voilà.
Chez les constructeurs, Red Bull est devant 330 points. Devant McLaren 329, ce titre constructeur n'est peut-être pas gagné pour Red Bull.
Non.
Ferrari est troisième, 250 points. Donc eux, par contre, leur troisième place, à ce rythme-là, ça va, bien au chaud.
Oui.
Mmh. Bah, s'il faut commencer à compter sur Massa pour amener les points à la maison...
Merci.
Mercedes est quatrième, 146 points. Et Renault est cinquième avec 123 points.
Ça sera
cool, ouais. Oui. Et Renault, mathématiquement, encore être titré. Là encore, il y a de l'espoir.
Mais le seront avec Red Bull.
C'est ce que j'allais dire. Non, en fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est que Red Bull, ça les intéresse tellement, ça les intéresse le titre constructeur. Ou c'est vraiment le titre pilote qui vise parce que c'est ce qui marque le plus.
C'est comme toutes les équipes, ça les intéresse parce qu'il y a la bourse derrière.
Ah oui,
il y a le derrière. Mais maintenant, s'ils sont vraiment honnêtes, celui qui fait le plus vendre, en tout cas pour Red Bull qui n'a rien d'autre à vendre que sa marque, celui qui fera le plus vendre, c'est d'être champion pilote. Champion constructeur, c'est bien, mais tout le monde sait très bien que Red Bull n'est pas un constructeur automobile. Là où Mercedes, là où Renault, là où Ferrari le sont. Voilà, c'est pour eux c'est honorifique d'être champion constructeur, mais le vrai titre, je pense que c'est le titre pilote. Mais ça, c'est vrai pour toutes les écuries.
Oui.
Ah, quoique, il y a des écuries qui peuvent miser sur le titre de constructeur.
Bah, les écuries qui ne jouent pas le titre pilote.
On dit en plus qu'en termes de prestige, le titre constructeur est plus prestigieux parce que c'est l'équipe en son réalité. Ouais, dans les faits, c'est quand même le titre pilote.
Ouais, ouais. Ça, c'est
celui dont on parle le plus quand même.
C'est ça qui reste dans la légende quand même. Enfin...
Ouais. On va passer au fait marquant de la course.
Allez.
Donc, on revient sur le fait marquant du Grand Prix de Hongrie. Et il y a quand même eu 51 votes cette semaine. Enfin, ce mois-ci.
Oui.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a 51. Les gens ont eu le temps. Est arrivé troisième. C'était toi, Dino, hein, qui avait noté ça.
Oui.
Avec grand étonnement. Même moi, quand t'as donné, j'étais...
J'ai eu une absence.
L'abandon d'Hamilton qui resserre le championnat. Ouais, c'était bien vu en plus, hein.
Oui.
10%, 5 votes. La pénalité de Vettel qui ruine sa course. 37%, 19 votes. Et, je suis pas peu fier. Le dépassement musclé de Barrichello sur Schumacher. 53%, 27 votes.
Nos auditeurs sont des morbides. Fans de morve.
Alors en cette émission spéciale, on va laisser la priorité.
Non, mais non, 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 je suis désolé, non, je suis pas d'accord.
C'est
pas gentleman.
Non, je suis pas d'accord. On fait dans l'ordre du sondage. On avait déjà eu le.
Bah justement, on n'était pas classé.
Mais non, mais vous représentez les auditeurs. Les auditeurs, ils ont dit la pénalité de Vettel qui ruine sa course. Ils avaient en plus le premier choix.
Oh là 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 là, ce changement de règles.
Hein
non, mais quand même. Le SAV, c'est une bataille, tu vois, sur chaque chose où on doit s'opposer, on est là le mort aux dents pour essayer d'être premier.
Non, mais oui, non, mais oui, voilà.
Tu vas te faire la gueule en plus.
Je vous ai laissé une opportunité de quoi, de 2 dixièmes de seconde, vous n'avez même pas saisi.
Non, mais ça me laisse sans voix, c'est tout, ça me laisse sans voix.
C'est pitoyable.
C'est exactement ça. C'est mesquin.
Je quitte cette assemblée.
C'est pas grave, je n'ai aucun remords. De toute façon, je me fous de ce qu'on pense de moi. moi, je dirais tout simplement, ça sera lié à Vettel. Voilà, honnêtement, vous avez vos chances. je dirais la nouvelle erreur de Vettel.
Oh, j'avais le même, exactement.
La énième.
D'après vous, pourquoi il voulait passer
bon,
premier?
Merci, Pusher. Mais pensez à moi, parce que vous allez passer tous les deux après. Donc Shinji, il aura le quatrième choix. Alors que nous, on a un enjeu depuis le début de l'année, c'est savoir qui va être déjà le meilleur. Et là, c'est serré, quoi. pour ça que je me bats, c'est pas contre vous, c'est contre Shinji. Salopard, tu sais, j'ai la meilleure voiture, mais salopard, il est capable de me faire une Hamilton, tu vois, de gagner sur la ligne. Ouais,
hein. Alors, Bouchard, Fab, vous avez le droit de vous entretuer pour savoir qui donnera le premier. Fab.
Non, vas-y, non, Bouchard, vas-y, vas-y.
Bon, ça, on saura qui est passif et qui est actif.
Bon, alors, je prends le pli.
No comment.
Non, bah alors je vais pas être original, mais je vais dire la victoire d'Hamilton qui le replace en tête du championnat. C'est pas terrible, ça, je sens que ça va pas marcher.
Bah déjà, tu mets un truc sur Hamilton, alors.
Ouais, vois, bah oui, voilà.
Et moi, pour compléter le trio, je vais dire le mauvais week-end d'Alonso.
Alors là, Shinji, t'es dans une merde.
Oh non, il a encore le choix.
On a eu de l'Alonso, on a eu de l'Hamilton, on a eu du Vettel.
Il en reste un.
Ah bah il manque
Sandoz. Ah j'ai le choix entre deux.
Ouais, je dis entre Vettel, Hamilton, Alonso, il faut Sandoz. Yamamoto, d'accord. Yamamoto, c'est Tarsi, si tu veux prendre un pilote du Grand Prix, d'accord.
Caron ou Sakon?
Sakon ou Caron?
Je veux dire le départ raté de Weber, mais qui est superbement bien rattrapé par sa course.
Enfin, c'est long, ça.
Oui, bah, t'écris.
Vous devrez scroller, hein, pour bien voir le sondage. Donc, vous allez avoir le choix pour pouvoir voter et être donc le 408e à voter depuis le début de la saison. C'était le temps que je calcule. Vous aurez donc le choix pour choisir le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2010. Entre non pas 3 mais 4 propositions, dont 2 de nos auditeurs. La énième erreur qui limite ses chances au championnat de Vettel. La victoire d'Hamilton qui le replace en tête du championnat. Le mauvais week-end d'Alonso. Et enfin, le départ raté de Weber, bien rattrapé en course. Pour cela, vous allez bien évidemment sur le site www.savf1.fr, sans le NF à la fin, s'il vous plaît. Pourquoi je le rajoute? Ferme ta gueule, Dino, merde. Vous écoutez l'émission et vous votez. Voilà, vous faites pas l'inverse.
Ah non, moi j'ai toujours pris l'habitude de voter avant d'écouter l'émission. Comme ça, je sais pas qui a dit quoi.
Ah oui, c'est...
Je suis pas influencé.
D'accord. Oui, donc voilà, ne faites pas ça, sinon vous allez voter pour autre chose que pour moi. Donc
si vous êtes arrivé là, donc si vous avez pas encore voté alors que vous écoutez ça, vous êtes mal barré.
On passe au drive-thru.
Drive-through.
J'ai bien dit cette semaine, drive-through.
Oui, c'est bien. Drive-through et SAV de la F1, tu dis bien en ce moment.
Oui.
Rétrogradation, t'as encore
ta
un
gueule.
Peu de mal. Mais...
Ta gueule.
Dis Kimi Raikkonen pour voir si ça marche.
Kimi Raikkonen.
Ah là, ça marche, hein, c'est bien. Puis il a un petit ton pour le dire.
Ouais.
Oui.
Faut savoir que vous qui ne voyez pas Shiji, mais Shiji, quand il parle de Kimi Raikkonen, il a des petites ailes qui lui poussent dans le dos, il y a des petits cœurs qui apparaissent dans ses yeux et il a les sourcils qui papillonnent, c'est magnifique. Ouais.
Et je sens un peu la vodka aussi.
Oui, voilà. Oh. Et encore, je ne vous parle que de la partie émergée de l'iceberg parce que...
Oui. C'est pour ça qu'il renverse ses bagnoles en WRC, c'est parce que là où il passe, les routes se soulèvent.
Oh.
Donc, les drives.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Quelqu'un a un drive-thru en tête, a noté un drive-thru.
Bah moi j'en ai noté 2, mais ils sont...
Honneur aux auditeurs.
Bah oui.
La grosse enflure.
Bah j'en ai un qui est facile en fait. Mon drive-through, ça va être contre les commissaires pour l'ensemble de leur œuvre. La pénalité de Vettel, que j'ai trouvé abusée. La sortie un peu précipitée du safety car la première fois.
Alors non.
Non,
vas-y, pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'avais lu ça sur les commentaires de l'après-course et j'ai re-regardé comme Dino la course hier.
Il y a un détail qu'on n'a pas vu.
Il y a un détail qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a le safety car qui est quand même en plein milieu de l'espèce de démarcation entre la voie des stands et la piste, et qui ramène la voiture de Barrichello, donc la sortie du safety car était tout à fait logique.
C'est parce qu'il y avait une grue, donc...
Ah d'accord.
Finalement, le drapeau jaune, la faute, c'est Barrichello qui a pensé qu'il pouvait rentrer au stand pour réparer sa Formule 1, alors qu'il lui restait une roue dans le virage, quoi. C'est le mec qui s'est dit, après 300 grands prix, peut-être que ça va marcher, quoi. Les mecs, ils vont rentrer, ils vont sortir un nouveau train avant, tu vois.
D'accord. Ok. Bon, alors, voilà. Donc, pénalité de Vettel. Du coup, non pénalité de Barrichello, je trouve qu'il n'y a pas constance entre les deux.
Ouais.
Alors que pour moi, c'est dans les deux cas,
comment,
c'est...
Comment il s'en sort bien?
C'est le...
Pour l'accrochage avec Alonso, d'accord. Je pensais que t'allais transformer ça en pénalité pour Barrichello d'être entré dans les
stands. Non. Non, c'est, oui, sur la, oui, pour l'accrochage avec Alonso, ouais. C'est, les deux ont raté un freinage, les deux sont fait surprendre, l'un, il a, c'est celui qui a le plus d'expérience sur la grille, il s'est merdé, Vettel, pour moi aussi, il s'est merdé, point.
Ah, mais en plus, Vettel, ils nous ont sorti comme argument, il a été sanctionné, parce que Vettel a changé deux fois de ligne. Alors, c'est sûr que quand tu perds le contrôle de ta voiture, hein,
ah, tu
restes pas sur la ligne.
Deux fois de ligne, il est derrière en plus.
On a appris en plus sur le coup. Alors avant c'était deux changements de ligne, maintenant c'est un. Alors bientôt ça sera zéro, c'est-à-dire que pour doubler les voitures, il faudra passer par au-dessus.
Non mais c'est surtout que
les Weber a tenté.
Et le pire c'est que le changement de ligne c'était fait pour surtout pour ceux qui protègent leur position.
Et pour les départs, c'est même pas ça, c'est qu'à la base dans le règlement, le changement de ligne, ça concerne les départs. Ça a été fait après Schumacher, sur les départs. Voilà, alors après ça a été clarifié effectivement dans l'histoire d'Hamilton en Malaisie. Mais voilà, reprocher à un mec d'avoir changé de ligne...
Non mais en plus on pensait que c'était derrière, deux, quoi. C'est non c'est plus qu'un.
En fait t'as le droit de changer de ligne une fois mais pas deux.
Non mais avant c'était deux. Bon, Hamilton il l'avait fait quatre fois donc on s'en fout mais... Voilà.
Quel enfoiré, cet Hamilton, quoi.
Ah, il fallait que tu la sortes, ça, là.
On me tend une perche. On me rappelle des bons souvenirs. Je suis nostalgique.
Non. Quelque chose pour enrichir ton drive-through,
C'est beau ce que tu dis, Quelque chose pour enrichir ton drive-through.
C'est surtout, c'est bien, on comprend.
Ouais, t'as un drive-through un peu pauvre. Est-ce que tu pourrais l'enrichir?
Mais non, mais s'il te plaît. Comme je l'ai interrompu, c'est pour ça. Et alors, Fab, est-ce que tu as un drive-thru?
Oui, contre Skype.
Ouais, déjà, premier drive-thru contre Skype, qui ne marche pas. Non, mais plus largement, moi, c'est... je partais sur un drive-thru sur Vettel, puis je me suis dit, non, mais c'est pas de sa faute, il y est pour rien. Il a fait une petite erreur, c'était pas grand-chose. Mais c'est la communication de Red Bull après la course, quoi. C'est quand même incroyable. On va... Horner, Marco, qui quand même essaie de retourner le problème, de la faire à l'envers, et dire que c'est de la faute à Button, tout ça. Moi, c'est leur communication qui commence vraiment sérieusement à me casser les canettes. Et non, mais voilà, quoi, il y en a marre. Il y en a marre d'eux et de leur communication, c'est tout. À la limite, maintenant, je déporte ma colère sur Red Bull et plus sur Vettel. C'est
quand même McLaren qui a commencé en disant...
c'est ce que j'allais dire.
Ils sont un petit peu ouverts les hostilités, quoi.
Oui, mais... C'est eux, c'est mieux.
C'est mieux.
Ce que je reproche, c'est McLaren fait c'est eux qui ont le tir, mais à la limite, ils devaient le faire. Ils devaient dire, ouais, mais voilà, Vettel a ruiné les chances de Button. Ils devaient le faire. Mais Red Bull n'aurait jamais dû répondre. Ils auraient dû juste rester sur ce que Vettel a dit. S'est excusé il s'est excusé après. Voilà. Il a dit, j'ai merdé. Oui. Je m'excuse auprès de Jenson. Point. Et Red Bull, ils auraient mieux fait justement de rien dire sur ce coup-là pour rester très pro et pour pas s'en mêler. On va pas ouvrir le truc. Point. C'est là où je reproche. Je suis d'accord avec Fab sur son drive-thru, parce que Red Bull, là, ils ont essayé de retourner le problème. Il était irretournable, le problème. Ils se sont empêtrés dans un truc duquel on peut pas sortir. En fait, j'ai l'impression de remplacer Dino au monologue.
Ce long silence restera.
Dino, as-tu un
l'impression. Non, à toi l'honneur, Shinji.
D'accord. Alors, moi, je vais dire un drive-thru un peu contre le règlement pour tout ce qui concerne les pneus pluie. Donc, en effet, il y a 11 trains de pneus secs et il n'y a que 4 trains d'intermédiaires et 3 de pneus pluie. Donc, le nombre de pneus pluie, en règle générale, ça va quand il pleut tout le temps. Parce qu'on peut utiliser les pneus pluie sur une période assez importante. Là, c'est vrai que on a une alternance de pluie et de sec pendant tout le week-end. Et ils ont cramé une bonne partie de leur pneus pluie le vendredi et le samedi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à réfléchir sur l'allocation des pneus pluie? Donc, dimanche, on a quand même vu des voitures partir en vrai slick, puisque depuis l'an dernier, on part en vrai slick. D'ailleurs, alors qu'on savait pertinemment qu'il allait pleuvoir 5 minutes après le début de la course, hein, on n'a pas vu une seule voiture... On n'a pas vu une seule voiture faire le pari...
Oui, de partir en...
Surtout avec les voitures qu'il y avait... Qu'est-ce qu'il y a?
Désolé.
Il se fait de ta gueule.
Non, eh oui, mais je sais bien, mais...
Je fais con et j'adore ce Bouchard qui dit « Oui, surtout », et puis la manière dont il a dit, ça avait l'impression qu'il était endormi, donc...
non, j'écoute ce qu'il dit Chigné, parce qu'il a raison.
Moi, normalement, il aurait...
Non, mais c'est moi qui fait rire, c'est tout.
Surtout avec des cas comme Schumacher, par exemple, qui était derrière... Et on aurait pu penser qu'ils fassent des paris sur les pneus, je veux dire. Et il n'y a eu aucun pari sur les pneus. Et lorsqu'il y a eu la première averse, on a vu des voitures rouler sous la pluie en pneus slick.
Oui.
Alors, autant quand on a des situations comme au Canada, c'est compréhensible d'être très strict sur les questions de nombre de pneus, parce qu'après tout, c'est que des questions de performance. Hein.
Oui.
Autant quand on commence à parler de la pluie, on... bascule sur des questions aussi de sécurité. Donc, est-ce que... D'ailleurs, dans d'autres disciplines, on aurait sans doute peut-être dit « Bon, on vous ramène un ou deux trains de pneus intermédiaires pour chaque équipe. » Bon, c'est pas forcément évident avec la logistique de la F1 aujourd'hui. Peut-être penser une meilleure exploitation et un meilleur règlement à ce niveau-là. Surtout qu'on savait qu'il pleuvrait à Spa ce week-end. Pourquoi pas, dans ces cas-là, inverser... le nombre de trains, c'est-à-dire mettre 11 trains de pneus pluie et 7 trains de pneus secs, par exemple.
Ouais.
Surtout que pour les questions d'économie, autant les pneus secs, ils sont en règle générale tous usés à la fin du week-end, les pneus pluie, s'il pleut pas, à partir du moment où le pneu il est pas utilisé, on peut toujours le réutiliser sur une autre course. Hein. Parce que le nombre de gommes, c'est le même, quelle que soit la course. Donc voilà, c'était un drive-through, peut-être pas une faille de règlement, mais quelque chose à améliorer. Surtout que c'est quelque chose qui touche à la sécurité.
Mais c'est surtout que moi j'étais surpris, parce qu'en fait je l'ai appris ce week-end, c'est qu'ils étaient également limités en nombre de pneus pluie. Je savais pas, je pensais que pour les cas où il pleuvait, pour les nombres de les pneus pluie, il n'y avait pas de limite. Parce que pour moi c'était, tu vas faire quoi? Si jamais t'as plus de pneus pluie, tu vas faire laisser partir une voiture
en sec?
Qu'est-ce qu'ils vont faire la FIA? Ils vont sanctionner l'écurie. L'écurie va dire on a plus de pneus. Comment on fait? Nous on veut quand même tenter nos chances. Si ça se trouve, il peut arriver à ramener des points.
Et finalement, sur chaque Grand Prix, tu ramènes des pneus pluie sans que t'en aies forcément. Je suis même sûr, par exemple, à Bahreïn, ils te ramènent des pneus pluie, quoi.
Oui. D'ailleurs, je me demande que deviennent les pneus dans ces cas-là.
Voilà, c'est-à-dire que après la course, tu ne détruis pas forcément les pneus, donc limite tu peux les réutiliser, tu peux les reprendre.
Voilà un truc très sympa qui pourrait être fait. C'est une allocation globale à l'année. Non, une allocation globale à l'année des pneus. Tu dis aux équipes, vous aurez tant de pneus de chaque matière, pneus secs, pneus pluie. Vous êtes toujours obligé d'utiliser deux trains de pneus différents par Grand Prix, mais sauf qu'on laisse le choix aux équipes. Donc tu vois, en fonction des Grands Prix, on aurait peut-être des équipes qui choisiraient des matières de pneus différentes, des choses comme ça. C'est une idée qui me vient comme ça.
Des pneus en tissu, en laine. Ah ouais, un petit pneu en laine.
Au freinage. Donc comme ça, si
c'est
tu veux.
C'est toi qui l'as fumé, la laine.
Comme ça, si tu veux, en ayant une allocation à...
Le pneu en merde, j'ai accroché une maille, merde. Ouais. Sur un tour, j'ai dégommé mon pneu.
En ayant une allocation à l'année, certaines équipes pourraient faire le pari, sachant qu'il y aurait de la pluie ou pas, de prendre plus ou moins de trains de pneus comme elles le souhaitent. C'est une idée comme ça.
Ouais. Oui, sauf que c'est pas les écuries qui transportent.
Ouais, bien sûr. Oui, ouais. C'est ça. Oui, c'est Bridgestone.
Ah bah oui. Ouh.
Alors Dino.
Vous m'avez piqué tous mes drive-through. Moi je mettrais un drive-through à tous ceux qui, à l'occasion du Grand Prix de Belgique, quand on arrive à Spa, disent « Ah c'est le plus beau circuit du monde ».
Oui, non mais même si la course est chiante, ça reste le plus beau circuit du monde.
Non.
C'est les caractéristiques du circuit.
Non, tu dis un truc qui est impossible, Shinji. La course à Spa ne peut pas être chiante.
Oui, c'est vrai, d'abord.
Mais, non, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tout le monde dit Spa c'est le plus beau circuit. Quand on va arriver à Suzuka, tout le monde va dire ah, Suzuka c'est quand même le plus beau circuit. Moi je trouve que c'est un très beau Grand Prix, une très belle atmosphère. Maintenant sur le circuit lui-même, j'avoue que pour moi le circuit de Spa-Francorchamps est un ton en dessous de Suzuka. Voilà. Donc moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, tout le monde dit Spa c'est le plus beau Grand Prix, le plus beau circuit, c'est magnifique, c'est génial, et on va tenir un discours totalement identique à Suzuka.
C'est tout pour ton drive-thru, Dino ?
Oui, voilà.
On passe au concours top proposition, Dino ?
Oh non.
Ah bah, chaque rubrique, en fait, ça te fait chier.
Ah non, mais alors là, pour le coup, je sais même pas s'il y a des gagnants, en fait.
Bon.
Parce que tout le monde copie-colle, mais en fait, ils ont pas copié la même chose que celui qui a fait la question. Alors, la question du concours top opposition consacré au Grand Prix de Hongrie était proposée par Sato Kamikaze, qui vous demandait, vous, chers auditeurs, qu'est devenu le dernier pilote hongrois, d'ailleurs le seul pilote hongrois engagé en Formule 1, Zsolt Baumgartner. Et la réponse, on va demander par exemple à Bûcher, qui nous a envoyé une contribution. Bûcher, peux-tu nous dire la réponse? Là, on reconnaît les mecs, on fait copier-coller.
il est allé en Indy.
Oui.
Et après, il est allé en Super League Formula.
Ouais, il a fait,
quel parcours?
Il a fait Champ Car en Minardi, il a été pilote essayeur, je crois, pour ouais. Minardi USA, en Champ Car. Il a perdu son volant à la suite de la disparition du Champ Car dans la fusion, enfin, l'absorption par l'IndyCar. Ouais. Il est devenu pilote d'essai pour Tottenham dans le prestigieux championnat. Super League Formula. Rendez-nous Enzo. Qui accueille d'autres noms mythiques. Alors ça c'est ce qu'a écrit je crois Globen, qui accueille d'autres noms mythiques du sport automobile comme Sébastien Bourdais, le pilote le plus malchanceux de la F1, ou encore Franck Montagny. Et alors, tout le monde a répondu ça, puisque tout le monde je pense a eu la même source.
Non, j'ai rajouté autre chose.
T'as rajouté quoi toi?
Moi, j'ai rajouté qu'il a en négociation et qu'il va certainement faire le, c'est quoi, ILMS l'année prochaine.
Ah oui, peut-être. Mais ça n'a toujours aucun rapport avec la réponse que nous a donnée Sato Kamikaze.
Ah ouais?
Rappelez-nous là.
La réponse de Sato Kamikaze, c'est, il travaille sur l'exploitation agricole de sa famille et vend des Renault dans la concession familiale.
Ah, c'est quoi sa source?
J'en sais rien du tout. Tu crois que je vérifie les sources?
Ça me tu veux dire que si ça se trouve, il a donné une question?
Oui, voilà. Donc, dans un élan de toute façon, après tout, on s'en fout de ce pilote, quoi. Quand même, merde. Pilote,
ouais. Comme j'ai galéré pour trouver ces cuisses.
On n'en a rien à foutre. Donc, on a reçu 4 réponses.
Ouais.
Et on va dire que c'est 4 bonnes réponses.
Ouais. Oh.
Non, c'était une mauvaise question.
Donc, vu que Bûcher n'a pas participé,
donc
il peut pas choisir. Par contre, Fab, t'as pas participé, donc à la limite, je sais pas si ce que Cindy en pense, il peut peut-être choisir aussi.
Oui, à partir du moment où il a pas participé, il peut aider à choisir.
Nous avons comme première question, quelle autre grande épreuve sportive la ville de Spa a-t-elle accueilli cette année?
Bah, c'est 1000 km de Spa.
Bah oui.
Autre.
Bah, les 1000 km de Spa, c'est autre chose que la Formule 1.
La ville de Spa, pas le circuit de Spa.
Ah oui.
Ensuite, nous avons quel célèbre nom du rallye automobile s'est imposé pour la dernière fois à Spa-Francorchamps. Ensuite, troisième question. Alors là, c'est une question tordue. Le troisième du premier Grand Prix de Belgique 1950 remporta une compétition majeure seulement 7 jours plus tard. Laquelle? Je suis même pas sûr de comment j'ai reformulé la question. Le troisième du premier Grand Prix de Belgique 1950 remporta une autre compétition majeure seulement 7 jours plus tard. Laquelle? Et enfin, nous avons la dernière question. Pour quelle raison y a-t-il eu un drapeau rouge pendant les essais libres 2 vendredi dernier? Donc voilà. Vous aviez...
Vous démerdez avec ça.
Question. Laquelle vous plaît le plus? Shinji, Fab?
Fab? Et tout.
Ouais, celle de Spa.
Eh bien, elle est vicieuse, sans l'être trop.
Donc on part pour celle-là?
Ouais.
Et donc nous allons faire un heureux puisque je crois que c'est sa première participation. Et donc c'est Iceman Air qui remporte.
Ouais.
Ce concours top opposition avec la question suivante: quelle autre grande épreuve sportive la ville de Spa a-t-elle accueilli cette année? Pour nous répondre, vous allez sur le site www.savf1.fr, rubrique contact. Vous pensez bien à sélectionner, s'il vous plaît, por favor, concours top proposition, et vous nous envoyez donc votre réponse, sans oublier, puisque nous on est des originales, une question sur le Grand Prix de, après, Monza. Mais comme le circuit est nul, passez directement à Singapour. Le circuit est nul, donc passez directement à la, là, la Corée, c'est nul aussi. Passez à Suzuka. Voilà, Suzuka, c'est bien. Là, il pleure, ça se trouve, avec ce manière. Ah, j'ai gagné! J'ai gagné à rien, mais j'ai gagné, quoi. Et donc, je vous avais posé une question intermédiaire.
Oui.
Ah oui.
Qui était de savoir sur, oui, deux, sur quel circuit s'est déroulé le premier Grand Prix de Hongrie de l'histoire. Il y avait un petit piège, bien évidemment.
Ah oui. Ah, c'était le premier Grand Prix. C'est pas le Grand Prix de F1.
Voilà. Alors, donc, Bucher, quel était de ce circuit?
Enfin, je me souviens plus de nom, c'était un truc, je sais plus.
Ça sonne presque comme un pilote de F1. Triple champion du monde brésilien. C'est le Népliqué.
Ah oui, bah...
T'as le Népliqué et le Népliqué Junior.
C'est le circuit de karting.
Et je suis sûr que la source notre, là où j'ai trouvé l'info, c'est la même source que là où tu as trouvé.
Bah, Wikipédia.
Voilà, ouais.
Donc c'est effectivement le circuit du Népliqué, avant la guerre, je crois que c'est 36. De et donc, branches. Il y avait une particularité, et ma question n'était pas anodine,
hein, oui. quelques semaines
après le Grand Prix d'Allemagne.
Ben oui.
Il s'agissait de savoir quelle était la particularité des deux derniers pilotes sur la grille, et quelle était-elle, Bucher?
C'est qu'ils ont, échangé leur place, hein, pour des raisons tactiques.
Hein. Ouais. Alors qu'ils sont pas du tout la même équipe.
Oui, c'est ça, puisque j'ai regardé, c'est après que j'ai regardé, tu sais, parce que ils ont échangé leur place, j'ai regardé, je fais, ah mais en plus ils sont même pas de la même équipe. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe. C'est oui, voilà. Les mecs qui s'inscrivaient avec leur voiture, et c'était l'équipe, en fait, c'était la marque de la voiture, mais c'était voilà. Pas l'équipe. On me disait juste sur quelle marque de voiture ils roulaient. Donc, si ça se trouve, c'était des amis, mais qui avaient deux modèles de voitures différents.
Je suis trop à chier, s'il te plaît. Tactiquement, je pense qu'il faut que je passe je parte dernier, pour arriver dernier au premier virage. Tu vois, comme ça, je vais pas perdre de place, quoi. Tu sais, auprès des mecs qui vont me financer. Ils pourront pas me dire ouais mais t'as perdu une place hein, ils me diront bah t'as fait une course stable quoi, t'es parti dernier, t'es arrivé dernier, c'est bien.
Alors et pour être honnête j'ai d'abord répondu à tes questions avant de chercher la question que j'allais poser pour le concours.
Oui.
Essaye d'avoir tapé dans les années comme ça 36 que j'ai eu l'idée de regarder pour la Belgique dans les un peu ce qu'il y avait eu avant.
Ouais.
On va passer au pronostic pour dans 10 jours.
Oui.
Hein. Et on sera à Monza. Le temple de la vitesse, c'est ce qu'on dit tout le temps d'ailleurs quand on dit Monza.
Hamilton, comme ça, il y en a un, il est obligé de dire autre chose.
Ah, oh, salaud.
Ah, il y a une nouvelle règle, on n'a pas le droit de mettre les mêmes pronos.
Ah, bah, c'est moche, c'est quoi ces vieilles règles inventées?
Je dirais comme ça, non, je déconne.
Allez, j'ai osé un truc, Kubica. Allez, je les ai tués.
Wow. Ouais. Kubica l'a tué ER.
je mise sur les F-Tech de Renault.
C'est vrai qu'il a très bien marché.
Ah bah oui, mais alors il l'aura pas. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, ils l'auront pas d'ailleurs.
Ouais, en fait, c'est un circuit qui est
tellement... Ils ont encore changé d'avis.
Il y a déjà tellement peu d'appui que...
Sur les autres circuits, c'est des millièmes perdus, mais pour des dixièmes gagnés. Mais à Monza, c'est des millièmes perdus pour des millièmes perdus.
Et Ferrari le garde, le F-Duck, toi.
Bah oui, bah...
Oui, mais bon...
Parce qu'eux, ils ont monté, ils peuvent plus enlever.
Tu sais, pour que Alonso puisse dépasser Massa, il faut ça. Hein.
Ah, en fait, ils vont la laisser sur la voiture d'Alonso, mais le virer sur celle de Massa. Ouais.
Donc on Allez, a...
Moi, j'ai dit Kubica, on sait jamais.
Kubica, moi, Hamilton.
Et pourquoi pas un Vettel? Parce que quand même, au bout d'un moment...
Ouais, ça a bien
ça cesse. Passé.
Moi, je vais mettre un petit Weber.
Tu mets même pas Hamilton.
Non, mais je sais pas, je vois bien Weber. Non, je vois bien Weber. C'est
tout, pas ça
tout.
Comme un con avec Hamilton, j'ai l'air con maintenant. Je fais le mec qui retourne sa veste trois fois.
Ah mais non, tu nous as interdit de faire deux fois le même.
Mais non, mais c'était pour déconner, c'était pour l'humour.
Ah mais non, moi je l'ai pris au sérieux.
Non, mais c'est pas drôle. Non, non, mais Weber, non, non, mais je sens bien Weber, moi.
Bon. Mais je suis surpris que personne n'ait dit Button.
Oh, ouais, mais question pointe de vitesse.
Oui, mais je vais te dire, tu vas avoir Hamilton premier et Button derrière à 20 secondes, sauf que deux virages avant la fin, Hamilton va se scratcher et c'est Button qui va gagner.
Moi, je mettrais bien Barrichello, tu vois, pour le doubler.
Bon, on arrive au bout de cette émission. Donc, on remercie les sponsors habituels du site. Et bien évidemment, pour cette émission spéciale, on remercie chaudement ceux qui nous ont accompagnés ce soir.
Oui, bien évidemment.
Pour le courage de nous accompagner.
Merci Shinji, merci Dino.
Merci Dino, merci Shinji. Et donc, bien sûr, merci à vous, Bouchor et Fab, de nous avoir accompagnés.
Oui, voilà,
merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis dans l'émission.
On a essayé de vous faire un peu de place. Hein. Surtout moi, ça a été dur. J'ai dû faire
bah, ouais, on l'a pris la place. Hein. On s'était préparé.
Sinon, Dino, tu as un petit dicton pour...
Ah ouais, bah ouais. Puisque il est de coutume de nous quitter quand on fait un Grand Prix, de nous quitter sur un petit dicton.
Donc, hein, on vous salue et on vous quitte.
On vous salue, Marie. Oh, non.
Et les autres aussi.
Marie, Maëlle. Toutes les filles venaient dans l'émission. Oui, voilà. Tu sais, on fait un jeu spécial fille.
Ah oui.
Oui. Pour rassembler.
Mais spécial fille ou spécial fille qui aime la F1? Parce qu'attention, les questions ne sont pas les mêmes.
Pour que j'aille vraiment méchant, c'est spécial fille qui aime la F1 et qui aime mon type d'humour.
D'accord.
C'est vachement plus
rare. Et là, ça fait beaucoup.
Hein. Ah, disons que j'ai plus de chances de taper dans le garçon, quand même. Hein.
Sur ce, on vous salue sur ces quelques mots.
Comme dit le proverbe brésilien, si tu bouffes trop de gâteaux pour fêter tes 300 grands prix, t'attends pas à faire plus de 300 mètres dans celui-ci.